6h57 sur Europe 1, très bon réveil, très bonne journée. Mathieu Béliard est là, c'est le 7-9 qui démarre. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Europe 1. Mercredi 21 octobre 2020, sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer. Et les hommages à Samuel Paty, bien sûr, c'est à la une. Cet après-midi, dans la cour de la Sorbonne, on veut un hommage simple, dit-on, du côté de l'Élysée. Il reste néanmoins une charge symbolique très lourde après cet attentat. Le symbole et les attentes. Vous l'aurez tous constaté, cette fois, il n'y a pas eu de trêve politique, d'union nationale ou de consensus. Les bougies, ça suffit, dit-on dans l'opposition. Marine Le Pen appelle à une législation de guerre. C'est sa première interview depuis l'attentat ce matin. La présidente du Rassemblement National, au micro de Sonia Mabrouk, à 8h15. Des propositions du Rassemblement National qui dépassent parfois le cadre de l'état de droit, de la Constitution. Écoutez, tiens, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il était hier soir sur BFM TV.
Il a tout prévu, le général de Gaulle. Il a fait des institutions de la Ve République. Quand il y a des temps ordinaires, nous prenons des choses ordinaires. Quand il y a des temps d'urgence, nous prenons des états d'urgence. Et quand il y a des actes de guerre au sens dramatique du terme, eh bien, il y a des pouvoirs exceptionnels qui sont donnés au pouvoir exécutif. Donc il faut avoir confiance dans les institutions du général de Gaulle, il faut avoir confiance dans la démocratie.
Parce que c'est de ça dont il est question aussi. Nos institutions, notre constitution, nos garde-fous, conseil constitutionnel, conseil d'État, et en face, la réaction politique, la volonté politique, laïcité renforcée, sacralisée, contrôle des réseaux sociaux, dispositifs de surveillance, mais dans l'immédiat même, après les effets d'annonce, quid des personnes arrêtées, des fermetures de mosquées, des dissolutions d'associations, nous avons besoin d'y voir plus clair. Faut-il changer la constitution, l'amender, forcer le passage auprès du juge constitutionnel, mon invité? C'était une évidence ce matin, vous le connaissez, Olivier Duhamel, politologue constitutionnaliste, c'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Voilà quelques éléments du programme, à 6h59 nous retrouvons Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo. Bonjour Laurent.
Ah, salut, bonjour à vous mon cher Mathieu. C'est une véritable tempête qui se déclenche sur le sud de la France, les Pyrénées, l'Auvergne, plus précisément le Cantal, l'Aveyron, le Puy-de-Dôme, le Tarn, l'Ariège, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, l'Isère. J'ai quelques valeurs à vous donner dans la nuit. Luchon entre 120 et 140 km heure, Lyon-Bron, 102 km/h, 110 à Aurillac, 111 à Toulouse, 95 à Castres-Mazamé, 90 à Vichy. Vous voyez que ce sont des valeurs extrêmement élevées qui vont durer une bonne partie de la journée, alors que la douceur est là pour nous tous, une douceur exceptionnelle. Il fera cet après-midi 19 à Belfort, il en fera 20 à Paris et Lille, 21 à Nice, 22 à Bourges et Lyon, 24 à Biarritz et Marseille et 26 dans les Landes. Vous dire encore que la pluie, malheureusement, enfin ou heureusement, peu importe la pluie, est là sur une bonne moitié nord. Les côtes de la Manche sont sous la pluie, Champagne, Ardennes, Poitou-Charentes, Lorraine, le Morvan, les Pays de la Loire également sous un temps pluvieux, mais ces pluies vont s'espacer au fil des heures dans le courant de la journée. Et puis nous avons sur le sud-ouest le Berry, sur l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la région PACA, nous avons un ciel voilé et venteux donc qui va persister une grande partie également de cette journée. C'est l'agitation, ça se calmera samedi, mais pour une journée seulement. Ça repart la semaine prochaine, mes amis. Oh là 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 là.
Il faudra en profiter donc samedi. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer. Bon réveil, il est 7h.
J'étais très très marquée par ce qui s'est passé ici. Déjà parce que c'est ma profession. Et je me suis dit, ce qui lui arrive à lui, ça pourrait même arriver à moi. Et ça fait peur.
De nombreux enseignants hier soir dans la marche blanche à la mémoire de Samuel Paty, des milliers de personnes qui ont dit non à la barbarie. Des mises en examen dans la journée, 7 personnes dont 2 mineurs seront présentées à un juge antiterroriste. Nous ferons le point sur l'enquête dès le début de ce journal. L'image du jour, ce sera ce soir dans la cour de la Sorbonne, un hommage national au professeur assassiné. Emmanuel Macron prendra la parole devant quelques 400 invités. Dans ce journal, la crise économique qui précipite des milliers de personnes dans la misère, obligées de demander de l'aide au secours populaire.
J'en reviens pas d'être obligée de demander de l'aide en fait au secours populaire pour pouvoir manger. Alors que je travaille, c'est particulier quoi. Je me dis qu'est-ce que je vais faire demain en fait.
Et puis c'était une soirée de foot avec le retour de la Ligue des Champions. Elle s'est mal terminée pour le PSG battu 2-1 par Manchester United. Un partout entre Rennes et Krasnodar.
Juste après ce journal, Google attaqué par la justice américaine pour abus de position dominante. L'éclairage écho de Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouette. La conférence de presse du diffuseur Mediapro. C'est l'avenir du foot français qui se joue ce matin. L'édito sport de Virginie Fulpin. Nous retrouverons ensuite Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc la fin des gardes à vue dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. 9 personnes ont été libérées, 7 autres doivent être présentées à un juge antiterroriste dans la journée. Il pourrait les mettre en examen, Gladys Laffitte. Alors, qui sont ces 7 suspects ?
Alors, il y a d'abord 2 collégiens. Ils sont soupçonnés d'avoir désigné Samuel Paty au tueur quelques heures avant l'attaque, contre une récompense de 300 euros qu'ils se sont partagés. Pour les enquêteurs, ça fait peu de doutes. Les adolescents ne pouvaient pas ignorer l'issue violente de la démarche du tueur, parce que la police sur le coup renflait déjà depuis plusieurs jours, mais aussi parce que les vidéos du père de l'une de leurs camarades circulaient beaucoup sur les réseaux sociaux. 3 amis du terroriste seront aussi présentés à un juge aujourd'hui. L'un d'eux est soupçonné d'avoir amené en voiture le tueur vendredi matin. Un autre l'aurait accompagné acheter l'une des armes qu'il avait sur lui.
Et puis il y a ce parent d'élève qui avait fait circuler les vidéos pour appeler à la mobilisation contre l'enseignant.
Oui, il est clairement établi par les policiers qu'il a échangé des messages pendant plusieurs jours avant l'attaque avec le terroriste, a priori via une messagerie cryptée comme WhatsApp. Et il se serait aussi parlé de vive voix au téléphone. Mais de quoi ? C'est là tout l'enjeu. Car si le terroriste a fait part de son projet au père de famille, pourquoi n'a-t-il pas prévenu la police ? L'a-t-il incité à passer à l'acte ? Ce sont ces éventuelles complicités que cherchent les enquêteurs. Des questions qui se posent aussi à l'encontre du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, ami du père de famille. Lui aussi sera présenté à un juge antiterroriste aujourd'hui.
Gladys Laffitte.
Des larmes, parfois de la colère et surtout beaucoup d'incompréhension. Quelques 6000 personnes participaient hier soir à la marche blanche à la mémoire de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine.
Des habitants, des élèves, des amis, mais aussi de nombreux professeurs particulièrement choqués par le drame, comme Julie, rencontrée par Pierre Herbulot.
J'étais très très marquée par ce qui s'est passé ici. Déjà parce que c'était ma profession, ensuite parce que c'était ma ville d'origine. Et ensuite parce que j'ai eu des petits problèmes, justement la dernière semaine avant les vacances. On m'a traité de raciste ou des élèves ont raconté n'importe quoi sur moi, les parents ont été énervés contre moi. Mais oui, je me suis reconnue parce que en fait les choses peuvent prendre d'énormes proportions très très rapidement. Et je me suis dit, ce qui lui arrive à lui, ça pourrait même arriver à moi. Et ça fait peur.
Et Brigitte Macron, elle-même ancienne enseignante, rend elle aussi hommage à Samuel Paty dans une lettre que publie ce matin Le Parisien. Lettre qui se conclut par ces mots. Aujourd'hui avec vous, nous sommes tous profs.
La première dame qui est cas contact, qui ne pourra pas assister à l'hommage national qui se tient ce soir dans la cour de la Sorbonne.
Une cérémonie en présence de 400 invités, dont une centaine d'élèves d'établissements de région parisienne. Elle commencera à 19h30. Jean-Rémy Baudeau, vous avez des informations sur la tonalité du discours d'Emmanuel Macron?
Oui, simple et à hauteur d'homme, c'est comme ça que l'Élysée annonce cet hommage préparé en accord avec la famille de Samuel Paty. Cet hommage s'adressera à ceux qui l'ont connu, précise l'entourage du président. C'est aussi pour cela que la Sorbonne a été choisie lieu symbolique de la transmission du savoir. Illustration du caractère intime de cette cérémonie, c'est uniquement en présence de la famille qu'Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à titre posthume au professeur assassiné, avant que son cercueil ne rejoigne la cour de la Sorbonne et ses 400 invités. Quelques textes. De la musique des chœurs de l'armée française et une prise de parole du président. Une dizaine de minutes où Emmanuel Macron va insister sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'obscurantisme. Il reviendra aussi sur le lien de la France avec la liberté de conscience, l'importance de la liberté de pensée et d'expression. Depuis 5 jours, Emmanuel Macron enchaîne les déclarations martiales envers les islamistes. Il affiche sa fermeté, combat sur le terrain politique. Ce soir, il se placera sur un registre plus sobre, loin des polémiques. Un président au chevet d'une famille, d'une communauté éducative et de toute une nation.
Merci Jean-Rémy Baudeau.
Emmanuel Macron, qui s'est rendu hier à la préfecture de Bobigny, le chef de l'État a promis d'intensifier l'action du gouvernement contre les partisans de l'islamisme politique.
Oui, et il a notamment annoncé la dissolution du collectif pro-palestinien Cheikh Yassine, fondé par le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui pourrait donc être mis en examen aujourd'hui. L'exécutif veut également s'attaquer à la propagande sur les réseaux sociaux.
Nous ne pouvons plus nous résoudre à assister passivement au déchaînement de la haine sur les réseaux sociaux. C'est bien, mes chers amis, monsieur le député, parce qu'il a été nommément désigné par les réseaux sociaux que Samuel Paty a été assassiné.
Les mots de Jean Castex hier à l'Assemblée, ce sera l'un des enjeux du Conseil des ministres de ce matin. Clément Le Saffre, mieux réguler les réseaux sociaux accusés de laisser passer des contenus haineux ou de promouvoir le terrorisme. Alors, Quel est le plan du gouvernement ?
Eh bien, faute de pouvoir contraindre les réseaux sociaux à agir, le gouvernement a opté pour une double stratégie. D'abord, durcir la réponse pénale contre les internautes postant des contenus incitant à la haine. Jean Castex souhaite créer un délit de mise en danger d'autrui par la publication de données personnelles. Alors, selon Matignon, ce n'est pas une révolution, il s'agit plutôt de renforcer un article du code pénal qui existe déjà et qui punit de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende la divulgation d'informations personnelles dans le but de nuire à l'intimité d'une personne. L'exécutif souhaite désormais que la sanction englobe les réseaux sociaux et soit étendue aux atteintes physiques. Le deuxième axe de ce plan, c'est le renforcement de la collaboration entre l'État et les réseaux sociaux. Le gouvernement leur demande de travailler main dans la main avec Pharos. Pharos, c'est la plateforme de la police pour le signalement des contenus illicites sur Internet. Et puis dans le même esprit, l'exécutif va réactiver le groupe de contact permanent qui réunit les représentants des plateformes et les agents du ministère de l'Intérieur. Créé en 2015, il était inactif depuis un an. Mais une réunion en urgence se tiendra la semaine prochaine. Objectif, améliorer la réactivité des réseaux sociaux en cas de signalement.
Clément Le Saffre, hier soir sur BFM, Gérald Darmanin a estimé que les réseaux sociaux avaient une responsabilité énorme dans la mutation du terrorisme. Pour le ministre de l'Intérieur, la question n'est pas de savoir s'il y aura un attentat, mais quand.
Et puis cette déclaration qui pourrait bien lancer une polémique aujourd'hui, Gérald Darmanin se dit choqué par les rayons de cuisine communautaire dans les supermarchés. Il met en cause les grandes entreprises qui gagnent de l'argent sur le communautarisme. 7h08 sur Europe 1. Touchés de plein fouet par la crise économique, ils viennent demander de l'aide au Secours Populaire alors qu'ils travaillent. Reportage à Saint-Brieuc dans la suite du journal de 7h.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h09 sur Europe 1, la suite du journal Hélène Zélani.
La marée du Covid continue à monter, 278 nouveaux malades en réanimation en 24 heures, 163 décès, situation sanitaire de plus en plus inquiétante et conséquences économiques. Les associations qui viennent en aide aux plus démunis sont débordées.
Un raz-de-marée de la misère selon le Secours Populaire. Dans les Côtes d'Armor par exemple, de nouveaux profils se présentent dans les locaux de l'association à Saint-Brieuc. Des personnes comme Emmanuel qui travaillent et n'aurait jamais imaginé se retrouver là. François Coulon l'a rencontré.
Elle n'avait jamais tendu la main. Il y a 4 ans, Emmanuel, veuve et mère de 2 enfants, monte sa micro-entreprise de médiation animale dans des EHPAD. Un vrai succès que vient fracasser le Covid. Le revenu familial s'effondre 800 euros. Les aides de l'État ne comblent pas les retards de paiement des employeurs. Emmanuel franchit pour la première fois de sa vie les portes du Secours Populaire.
C'est surtout mon orgueil et ma fierté. C'est dur, quoi. C'est très très dur. On rentre dans une classe sociale qu'on n'aurait jamais imaginée quand on dit vulgairement il y a des gens qui sont des cas sociaux. Ben, en fait, je suis dedans, quoi. Et là, ça fait mal. Je comprends pas qu'est-ce que je fais là. Je reviens pas d'être obligée de demander de l'aide en fait au Secours Populaire pour pouvoir manger. Alors que je travaille, c'est particulier, quoi. Je me dis qu'est-ce que je vais faire demain en fait. J'ai honte. Hein. Il y a que 2 personnes dans ma famille qui savent que je vais au Secours Populaire. J'ai le paraître, mais j'ai plus le portefeuille qui va avec. Je pense que n'importe qui peut vite basculer en fait dans la précarité.
Jamais le Secours Populaire n'avait accueilli autant de Bac plus 2 ou 3 dans les Côtes d'Armor. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe 1.
Conséquence économique du Covid, la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific annonce qu'elle va réduire ses effectifs d'un quart et fermer une filiale. 8500 emplois au total seront supprimés.
Le football à présent, méconnaissable, titre l'équipe ce matin avec une photo de Kylian Mbappé dépité sur la pelouse du Parc des Princes. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont raté leur retour en Ligue des Champions.
Et oui, défaite 2-1 face à Manchester United. Les Parisiens, finalistes l'an dernier, se retrouvent déjà en position délicate. Julien Froment.
Un fond de jeu inexistant, de la fébrilité en défense et de l'inefficacité en attaque, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas faire pire pour débuter sa campagne européenne. Cette défaite à domicile en phase de groupe, c'est une première pour les Parisiens depuis 16 ans. Face à un adversaire Manchester, ultra réaliste à défaut d'être flamboyant, l'entraîneur Thomas Tuchel ne s'explique pas cette déconvenue.
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On a eu beaucoup de problèmes, spécialement pendant les premières mi-temps, c'est clair. Oui, voilà, c'était aujourd'hui comme ça. On a eu des difficultés de trouver des solutions. On a eu des problèmes de trouver le spirit nécessaire en Ligue des Champions. Et maintenant, c'est plus difficile qu'en avant.
Malgré ce faux départ, le Paris Saint-Germain conserve encore toutes ses chances de qualification, mais ces deux prochaines semaines, que ce soit en Turquie à Istanbul ou en Allemagne à Leipzig, le club de la capitale n'aura plus le droit à l'erreur.
Et dans l'autre match de la soirée, le Stade Rennais a fait match nul face aux Russes de Krasnodar un partout. Ce soir, l'OM se déplace en Grèce sur le terrain de l'Olympiakos, coup d'envoi à 21h et on suivra aussi le choc entre le Bayern de Munich et le tenant du titre, l'Atlético Madrid.
Merci beaucoup Hélène Zélani. Oui, on va retrouver le Bayern de Munich qui avait battu le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Hommage national à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne cet après-midi. Et dans le même temps, la lutte contre l'islamisme radical à l'épreuve du droit, de la Constitution. Sacralisation de la laïcité, liberté d'expression sur les réseaux sociaux, on en parlait. Très concrètement, dans l'immédiat, les arrestations, les fermetures de mosquées, les dissolutions d'associations. Quand on se pose des questions sur la Constitution, on appelle bien sûr Olivier Duhamel. Le tête-à-tête Europe Matin à 7h40 tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barry, les 7h12.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Les États-Unis contre Google. Le combat judiciaire est lancé. Le département de la justice américain attaque le géant du net pour abus de position dominante.
Oui, c'est fait. La plainte a été déposée devant un tribunal fédéral par l'État américain à Washington. Alors, après un an d'enquête, Google est poursuivi pour ses pratiques anticoncurrentielles et sa volonté de s'assurer une position de monopole. Le département de la justice l'accuse d'avoir mis en place toute une série d'arrangements illégaux pour tuer ses concurrents. Il l'accuse en particulier de verser des milliards de dollars, oui bien des milliards, à des fabricants de smartphones pour que Google apparaisse comme moteur de recherche par défaut sur ses téléphones. Autre accusation parmi une longue liste, hein, sur les appareils qui tournent sous Android, le système d'exploitation développé par Google, eh bien, le moteur de recherche, évidemment, est préinstallé et ne peut être supprimé, ce qui, on en conviendra, laisse peu de place à la concurrence.
Cette plainte contre Google ressemble à la croisade qu'avait menée l'État américain. C'était contre Microsoft il y a 20 ans.
Oui, c'est vraiment important de le rappeler parce qu'à l'époque, Microsoft avait employé exactement les mêmes méthodes pour imposer, c'était son navigateur Internet Explorer, il voulait l'imposer à la terre entière. La justice, après une longue procédure, l'avait obligé à faire de la place à ses concurrents et c'est comme ça qu'avaient pu émerger des navigateurs comme Firefox ou Chrome, développés par un jeune concurrent nommé Google. Rebelote donc cette fois. Vu la domination acquise par Google, la procédure pourrait aller au pire jusqu'à un démantèlement du géant américain, même si le scénario le plus probable, c'est plutôt que la justice l'oblige à revoir fondamentalement certaines de ses pratiques. Et d'ailleurs, en 2002, après un premier jugement ordonnant un démantèlement de Microsoft, le géant de l'informatique avait finalement conclu un accord à l'amiable avec l'État américain pour faire de la place à la concurrence et éviter justement d'être démantelé.
Google reste d'ailleurs serein face à cette offensive judiciaire.
Bah oui, d'ailleurs l'action a même progressé un petit peu hier soir à Wall Street.
Il y a un côté cynique.
Voilà, exactement. Google est serein d'abord parce qu'il dispose de 120 milliards de dollars de cash et d'une armée des meilleurs avocats américains pour se défendre. Et puis ensuite parce que ses services financés par la publicité sont proposés gratuitement aux entreprises et aux particuliers. Les gens utilisent Google parce qu'ils choisissent de le faire, se défend le géant de Mountain View. C'est une forme de servitude volontaire, pour reprendre le mot de la Boétie, et Google espère bien démontrer que s'il occupe une position dominante, eh bien, c'est parce que les utilisateurs le veulent bien.
Merci Nicolas Barré, l'éclairage éco, il est 7h17. Et nous retrouvons Vincent Hervouet pour le regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
L'homme politique le plus populaire d'Amérique latine quitte la vie politique.
Oui, le président le plus pauvre au monde entre 2010 et 2015. Une vedette à force d'humilité. À la tête de l'Uruguay, 3 millions d'habitants, José Pepe Mujica refusait de jouer au président. Il rentrait le soir dans sa petite maison en banlieue au volant de sa vieille coccinelle. Les journaux ont adoré. Une tête de paysan, jamais de cravate, une vie de légende. Et c'était pas du marketing. Pepe reversait 90% de son salaire de 9 300 euros pour construire des logements sociaux. Il déteste la société de consommation.
À la fin des années 60, il la détestait les armes à la main.
Il voulait la violence, la guérilla urbaine pour provoquer la répression, l'embrasement général et enfin la révolution. À la place, il y a eu les militaires qui l'ont jeté au cachot pour 13 ans, dont 2 au fond d'un puits. Il y a appris à vivre avec frugalité. Cet apôtre de la décroissance dit que les pauvres ne sont pas ceux qui ont peu, mais ceux qui veulent beaucoup. José Mujica a vendu le pays aux Chinois. Une zone franche, un port, les télécoms, la route de la soie. L'Uruguay dépend totalement de Pékin. Mais la gauche ne critique pas son icône parce qu'il a légalisé l'avortement, le mariage homosexuel et aussi la consommation de marijuana. Autant de réformes sociétales qui ne gênent en rien le capitalisme mondialisé, bien au contraire.
Il avait été réélu l'an dernier au Sénat.
C'était avant l'épidémie. Il a 85 ans et la politique pour lui, c'était parler aux gens, aller sur le terrain, pas rester dans un bureau. Alors partout en Amérique latine, le virus bouscule les agendas, il gèle les conflits sociaux, il fige les crises politiques. Au Chili, en Équateur, en Colombie, on s'attend à de violents rattrapages quand l'épidémie sera terminée. En Uruguay, le virus a jeté Pépé à la retraite. Il s'était mis d'accord avec Julio Maria Sanguinetti, qui a lui aussi été président deux fois. Le vétéran de la droite libérale, progressiste. Ils démissionnent ensemble. Ils se sont toujours combattus, mais à l'heure du bilan, on en vient à se demander pourquoi.
Merci Vincent Hervouet, et on pourrait se prendre à les imaginer en retraite ensemble, mais oui. Ça paraît un peu difficile. Vincent Hervouet, le regard international, 7h19. À suivre, les yeux sont tournés vers la Ligue des Champions. Paris-Rennes hier, Marseille ce soir. Mais l'avenir du foot français se joue lors d'une conférence de presse ce matin. Celle du patron de Mediapro, le diffuseur du championnat, l'édito sport de Virginie Fulpin, dans une minute.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Où va le football français? On ne parle pas de la Ligue des Champions, hein. On va éviter, on va oublier ce matin. Mais de la conférence de presse de Mediapro, le principal diffuseur du championnat, conférence de presse prévue ce matin. Pour vous, Virginie, c'est déjà un problème que les droits télé prennent plus de place que le sport en lui-même?
Une journée où on attend plus fébrilement la conférence de presse de Mediapro que le coup d'envoi du premier match de l'OM en Ligue des Champions depuis 7 ans montre bien que quelque chose ne tourne pas rond. Ce matin, on devrait pleurer Bruno Martini ou se dire que c'était peut-être pas plus mal finalement que le Parc des Princes soit vide hier soir pour la bouillie de match offerte par le PSG pour sa défaite contre Manchester United, ou trépigner en attendant l'entrée en lice de Marseille face à l'Olympiakos. Parce que chaque participation de l'OM à la Ligue des Champions rappelle de doux souvenirs et qu'on a toujours envie de se laisser transporter par l'événement. Mais non, quand on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on fait taire son cœur et on sait que l'avenir du foot français se joue loin des terrains, sans ballon ni crampons, mais avec micro et caméra suspendus aux paroles d'un diffuseur mauvais payeur. Mediapro n'a toujours pas payé sa deuxième échéance de 172 millions d'euros à la Ligue et les clubs ont peur de la faillite. Toujours plus loin du compte de fait et plus proche du compte de résultat. J'ai bien conscience qu'on ne peut pas vivre de football et d'eau fraîche, mais que tout le monde soit aussi dépendant du bon vouloir du diffuseur prouve qu'on a dû se tromper de chemin à un moment.
Oui, sans ballon ni crampon, mais avec quelques tacles à la carotide annoncés quand même. Que va annoncer le patron de Mediapro?
Ça c'est la question à 814 millions d'euros.
C'est incroyable.
C'est fou. Mais vu sa communication sans queue ni tête depuis le départ, c'est compliqué d'avoir une réponse. Mais en fait, si on veut dire, peu importe ce qu'il va dire, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais imaginons qu'ils disent, d'accord, finalement on paie. C'est trop tard, la confiance avec les téléspectateurs est rompue, on en a déjà parlé. Et avec la Ligue, encore plus, ça ne va pas prendre le risque d'un nouvel impayé à chaque échéance. Donc le patron de Mediapro peut raconter ce qu'il veut. En fait, la Ligue va tout faire pour rompre son contrat avec le diffuseur et lancer un nouvel appel d'offres. Pierre Maes, un spécialiste de la négociation des droits télé, me disait hier que c'est forcément Canal+ qui va se positionner. Et vu le contexte, c'est aussi Canal+ qui va fixer le prix, pas la Ligue. Donc autant dire que ça ne sera pas 800 millions d'euros. Mais faisons vite, qu'on ne parle plus en boucle du diffuseur, mais de ce qu'il diffuse, c'est-à-dire de football. À la base, c'est un petit peu pour ça qu'on est là, non?
Oui. Le micro allumé, c'est plus fort, le oui. L'édito sport de Virginie Fulpin, merci beaucoup. Il est 7h24 et nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais aujourd'hui, je voulais passer en revue les différentes expressions qui désignent un état d'ébriété avancé, sachant que nous sommes bien d'accord que ce soit le matin ou le soir, l'alcool se consomme avec modération.
Oui, avec ou sans couvre-feu. Alors, il y a sous comme un cochon, il y a avoir un coup dans le nez.
Oui, alors calmez-vous Mathieu, c'est pas encore le week-end. Il y a aussi être carpette, rond comme une queue de pelle. Et l'expression qui nous intéresse aujourd'hui, sous comme un Polonais.
Mais c'est vrai qu'ils ont une solide réputation, on peut dire. Mais pourquoi les Polonais, un Polonais plus qu'un autre?
Je vais vous dire Mathieu, c'est à cause de Napoléon. Eh oui, dans son armée se trouvaient beaucoup de Polonais. En 1808, c'est la campagne d'Espagne, un assaut final doit être donné à 1500 mètres d'altitude et c'est un régiment d'élite polonais qui fait la différence grâce à son courage et à sa puissance. Après l'affrontement, quand les généraux français présentent à Napoléon les valeureux combattants, ils tentent de minimiser l'exploit en soulignant qu'ils avaient bu pour se donner du courage. Et Bonaparte de répondre « Alors, la prochaine fois, sachez être sous comme des Polonais. Et voilà comment un compliment a construit une légende pas forcément flatteuse pour tout un peuple.
Faudra leur demander, cela dit.
En tout cas, justice, aujourd'hui, est rendue aux Polonais.
Grâce à vous, Stéphane Bern. 16h tout à l'heure, historiquement vôtre, avec Mathieu Noël.
Oui, aujourd'hui, Mathieu, on réunit trois personnalités qui ont des doubles foyers. Je ne parle pas de lunettes, mais bien des femmes, de famille même. Émile Zola, François Mitterrand et Hugo Frey aussi. Ah oui, plus chaud qu'on ne le croit à 91 ans. Bref, on vous raconte l'histoire et plutôt deux fois qu'une, tout à l'heure de 16h à 18h avec Mathieu Noël sur Europe 1.
À tout à l'heure, 16h.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Il est 7h26 et on se retrouve tout de suite. La météo, Laurent Cabrol et un nouveau journal sur Europe 1 avec Sophie Echen. Europe 1. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et Barbara, c'est un joli prénom, mais c'est un mauvais présage pour nous. C'est mauvais. Nous avons énormément de vent. Nous sommes sous des tempêtes, il faut bien le dire. C'est une vraie tempête sur les Pyrénées, avec des vents à Aluchon, par exemple, à 140 km/h. 250 ont été enregistrés sur les crêtes pyrénéennes. Nous avons du 110 à Aurillac, du 110 à Toulouse, 90 à Vichy, à Dax. Bref. C'est vraiment un temps tempétueux sur une grande moitié sud de la France. Alors, il n'y a pas beaucoup de pluie sur le sud, mais il y a énormément de vent et il va persister aujourd'hui. Demain, il va se calmer un petit peu, après-demain aussi, et il va disparaître samedi pour réapparaître probablement la semaine prochaine. Voilà pour la grande tendance. Partout ailleurs, c'est de la pluie sur la grande moitié nord. Alors, des pluies pas énormes, c'est des pluies, disons, de petite intensité. Et ces pluies vont tendance à s'en aller. Elles seront remplacées par d'autres pluies, par des averses. Et ce sera le cas sur les côtes de la Manche, sur Paris, sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Morvan, Pays de la Loire, mais prévoyez un temps humide. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que la douceur est là. Alors, ce sont des vents de sud, vous l'avez compris, et donc une immense douceur, 26 degrés du côté de Dax et de Mont-de-Marsan, 25 à Pau, vous voyez, dans le sud, c'est vraiment de la grande douceur, 24 à Biarritz, et nous aurons 20 degrés sur la capitale, 20 degrés à Lens, 19 à Caen et 17 à Lorient.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Sophie Echen, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Au fur et à mesure que ça grimpe, on est dans l'appréhension, dans l'inquiétude. Combien de temps on va devoir fournir un effort ?
Marée montante dans les hôpitaux où le nombre de patients en réanimation continue d'augmenter. Les soignants, déjà épuisés, ne sont pas au bout de leur peine. Après l'assassinat de Samuel Paty, comment les profs vont-ils enseigner sereinement ? Ils ne veulent pas avoir à choisir entre risque ou autocensure. En réponse à ce drame, le gouvernement fait de la lutte contre l'islamisme radical sa priorité. Mais pourra-t-il réellement appliquer ces mesures sans se heurter aux droits ? Dans ce journal également, bientôt un masque tueur de virus. Et puis l'exode des vacanciers de la Toussaint qui fuient le couvre-feu pour la zone libre.
Juste après ce journal, le politologue constitutionnaliste que vous connaissez bien sur Europe 1, Olivier Duhamel, invité du tête-à-tête Europe Matin, avant de retrouver Catherine Ney pour l'édito politique. Juste avant, Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Ce matin, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un chiffre malheureusement record qui nous renvoie à la situation du printemps dernier. 2168 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation, un nombre qui augmente de jour en jour et la hausse devrait se poursuivre pendant les deux prochaines semaines, a prévenu le ministre de la Santé. Une nouvelle fois, les hôpitaux arrivent au bord de la saturation. En Île-de-France particulièrement, qui concentre 661 malades dans les services de réanimation. À l'hôpital de Melun, Johanna Chabas a rencontré des soignants qui peinent déjà à affronter cette deuxième vague.
Au fur et à mesure que ça grimpe, on est dans l'appréhension, dans l'inquiétude. Combien de temps on va devoir fournir un effort ?
Dans le service de Manon, infirmière, les 22 lits de réanimation sont régulièrement tous occupés, la moitié par des patients atteints du Covid. Pour le docteur Mehran Monchi, chef du service, c'est une difficulté supplémentaire par rapport à la première vague, jongler entre deux types de patients.
Pendant la période de confinement, par définition, il n'y avait quasiment plus d'accidents de la route, pratiquement plus de gens qui avaient des fractures. La maladie elle-même ne se produisait plus. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc les gens viennent pour différentes pathologies à l'hôpital et il faut continuer de les soigner.
Et ce qui inquiète particulièrement Mehran Monchi, c'est que contrairement à la première vague, son hôpital ne peut compter que sur lui-même.
L'épidémie était limitée à certaines régions au mois de mars et avril. Actuellement, l'épidémie est générale sur toute la France. Donc on ne peut ni transférer des malades, ni faire venir du personnel de régions moins touchées.
En cas de saturation, le docteur Monchi peut ouvrir 12 lits supplémentaires en les récupérant dans d'autres services. Mais il prévient, il lui faudra en plus autant d'infirmières et d'aides-soignants. Melun, Johanna Chabas, Europe 1.
L'actualité aujourd'hui, c'est évidemment l'hommage national à Samuel Paty, ce soir dans la cour de la Sorbonne à Paris.
5 jours après l'assassinat de ce prof d'histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine, c'est dans cette ville des Yvelines, où il enseignait, que 6000 personnes se sont rassemblées hier soir pour lui rendre hommage. Dans le cortège, ses élèves, ses voisins, des anonymes et aussi de nombreux professeurs choqués et inquiets à l'image d'Anouk.
On a eu Charlie Hebdo il y a 5 ans et on a l'impression que ça a servi à rien. On attaque la liberté pédagogique des professeurs. C'est notre métier qui est remis en question aujourd'hui. On va être obligé de s'auto-censurer parce que si on garde cette liberté, on peut être visé. Quel professeur va oser ? Enfin, moi, je suis maman. Moi, j'aurais peur qu'on s'attaque à mes enfants ou à mon conjoint. Enfin, on n'a plus cette liberté qu'on a pu avoir avant.
Un témoignage recueilli par Pierre Herbulot.
Et ce danger, vous l'entendez quand même, ce danger aujourd'hui de l'autocensure. Les enseignants qui vous disent eux-mêmes, mais comment vais-je oser ? C'est ce sujet-là qu'il faudra creuser, évidemment, dans les semaines qui viennent. La rentrée scolaire, c'est le 2 novembre. L'enquête se poursuit. 7 personnes vont être présentées à un juge antiterroriste aujourd'hui.
Parmi elles, le prédicateur Abdel Hakim Sefrioui, c'est lui qui avait créé le collectif pro-palestinien Sheikh Yassine. Il sera dissous en Conseil des ministres aujourd'hui. Le gouvernement l'a annoncé, il veut mettre en place des actions concrètes pour lutter contre l'islamisme radical.
Dissolution d'associations donc, mais aussi arrestation, perquisition. Sauf que, Louis Dragnel, l'exécutif doit le faire dans le respect de l'état de droit.
Et oui, et ce n'est pas simple. Les 231 expulsions d'islamistes ordonnées le week-end dernier mettront du temps, car il faut l'accord du pays de naissance. Même si le gouvernement veut utiliser des moyens de pression, ce n'est pas évident. Du côté des premières perquisitions, elles sont jugées plutôt décevantes, car beaucoup d'islamistes s'y étaient préparés depuis longtemps. Et puis, les associations menacées de dissolution l'ont fait savoir, elles vont se battre sur le terrain du droit, convaincues qu'elles vont gagner. Enfin, les dirigeants de la mosquée de Pantin, que l'État va fermer, se battront aussi en déposant des recours. Un préfet résume le problème, les islamistes utilisent la démocratie et l'État de droit pour tuer la France et la République. Après le Conseil de défense de dimanche soir, Emmanuel Macron l'affirmait, les islamistes ne dormiront plus tranquilles. Sauf que depuis hier matin, par exemple, la garde à vue du président de l'ONG Oumar Charity est levée. Rien n'a été retenu contre lui par la justice. Et ce matin, il s'est réveillé chez lui.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. En parallèle, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui prévoyait de se rendre en Algérie le week-end prochain pour obtenir l'accord d'expulsion de ressortissants algériens radicalisés, vient de l'apprendre. Son déplacement a été reporté. Raison officielle des Algériens, la campagne pour le référendum qui se tient dans le pays le 1er novembre.
7h35 sur Europe 1. Imaginez un masque capable de détruire le Covid. C'est ce qui est en train de mettre au point une start-up marseillaise.
Grâce à des textiles intelligents. L'idée, c'est de piéger le virus quand il se pose sur un tissu, sur un masque, mais aussi sur une chaise. Donc dans une salle de cinéma, au théâtre ou encore au restaurant. Nathalie Chevance.
C'est ici, dans ce laboratoire, qu'une équipe de chercheurs a travaillé pendant 6 mois pour mettre au point un principe actif capable de détruire le virus lorsqu'il se pose sur les textiles. Des dizaines de milliers de masques sont en cours de fabrication, coton polyester réutilisable, imprégné de cet actif, testé sur la souche virale. Nathalie Agege, docteur en biologie moléculaire, fondatrice de Pronyme, est à l'origine de cette innovation.
Sur la face externe du masque, on dépose une technologie qui est antivirale, ce qui veut dire que quand le virus va se déposer par l'intermédiaire de postillons, etc., le virus va immédiatement être capté par le tissu, on va détruire sa membrane, et donc il va devenir non infectieux. C'est ce qu'on appelle un biocide. On arrive à tuer le virus en contact avec un tissu de la même façon qu'on va repousser un moustique ou tuer un insecte.
Quel est l'intérêt ?
Les événements, le sport. J'arrive dans un lieu public, il y a une chaise en tissu, un restaurant, je vais pulvériser un produit qui va tuer le virus. C'est révolutionnaire, mais c'est vraiment des dispositifs qu'on attend aujourd'hui pour bloquer le virus.
Et en attendant les sprays, ces masques solidaires, lavables 20 fois, seront vendus entre 5 et 10 euros dans les pharmacies, les bureaux de tabac. Les personnels soignants et l'industrie textile sont à l'affût. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis, difficile de profiter des vacances de la Toussaint quand on vit en zone d'alerte maximale. Couvre-feu de 21h à 6h, bar fermé, vie culturelle quasiment réduite à néant.
Alors évidemment, pour esquiver ces restrictions, certains en profitent pour migrer vers les régions où le virus circule moins, sur la Côte d'Azur par exemple, où Frédéric Michel a rencontré des vacanciers en quête d'un peu de liberté.
Les pieds dans le sable et un masque sur le visage, Henri savoure la douceur de la baie de Cannes. Ce retraité habite Grenoble, en zone rouge.
On est sous couvre-feu là, tout est fermé à 9h. Là, il y a mon fils qui venait avec mes petites filles, donc je suis venu les rejoindre. Hier soir, on a mangé au resto, c'était tranquille. 18h, ça m'ennuierait.
Pas besoin de regarder la montre. Joël, un Parisien en vacances, décompresse.
On n'est plus aussi stressé à savoir si on a oublié notre masque ou pas, donc ça fait du bien.
Isabelle a opté pour des vacances en famille.
C'est sûr qu'on a besoin de s'échapper un peu, hein. Cette ambiance de Covid, quoi.
Moi, je travaille dans le 77, donc j'ai beaucoup de transport. C'est un peu angoissant aussi. Hein.
Impatient aussi, les grands-parents.
Bah oui, surtout quand on est avec les petits-enfants, de les retrouver, ça fait du bien. Depuis le mois de mars, ça commence à faire lourd. Hein.
Et après une rentrée agitée, il était temps de souffler pour Stéphanie, venue chez ses parents avec ses trois enfants.
Fallait faire un break, de toute façon. Pour les enfants, c'était compliqué de ne pas voir les grands-parents, de ne pas voir la famille. Et tout le monde en a besoin, nous aussi on en profite.
Car une fois rentrée à Paris, cette famille devra à nouveau s'habituer au couvre-feu.
Un reportage de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Et puis le foot, début de Ligue des Champions manqué pour le Paris Saint-Germain, tenu en échec par Manchester hier soir, victoire des Red Devils de 2-1. Et puis match nul, un partout entre le Stade Rennais et les Russes de Krasnodar. À suivre ce soir, l'entrée en lice de Marseille contre les Grecs de l'Olympiakos, coup d'envoi à 21h.
Merci Sophie Echen, il est 7h38.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Hommage national à Samuel Paty cet après-midi dans la cour de la Sorbonne. Il n'y a pas eu de trêve politique d'Union nationale cette fois. Et tiens, c'est sa première interview depuis l'attentat. La présidente du Rassemblement national répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Marine Le Pen qui appelle à une législation de guerre. Ses propositions ne sont pas toujours compatibles avec l'état de droit. En ce moment, le regard des experts se tourne vers le droit précisément. Arrestation, dissolution d'association, encadrement des réseaux sociaux, la laïcité également réaffirmée dans la Constitution. Vous connaissez Olivier Duhamel sur Europe 1, Mediapolis de 10h à 11h le samedi, notre expert de la Constitution. Tiens, faut-il la changer, la Constitution ? Je lui pose la question dans une minute sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h40. La Constitution de la 5e République, le Conseil constitutionnel, les questions, la question des libertés individuelles ou celle de la laïcité, mon invité, le constitutionnaliste politologue Olivier Duhamel.
Le tête-à-tête,
Mathieu Béliard.
Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Mathieu Béliard.
D'abord l'actualité, on annonce ces derniers jours des arrestations, des fermetures d'établissements, des fermetures de mosquées, des dissolutions d'associations. Il y a une volonté politique affirmée, il y a l'action de la police. Mais tant qu'un juge ne s'est pas prononcé, on en parlait dans le journal, il faut s'attendre à ce que tous sortent, les gardés à vue.
Disons que ça dépend des cas de ceux que vous évoquez, mais par exemple sur la dissolution d'une association, de deux choses l'une. Où l'association l'accepte et c'est effectif immédiatement, ou en effet, elle peut avoir recours au juge pour faire annuler la décision. Et c'est une bonne chose qu'un préfet ne décide pas tout seul, sans contrôle, d'annuler telle ou telle association, parce que nous sommes dans un état de droit.
Ou de fermer la mosquée de Pantin, en l'occurrence.
Ou de fermer la mosquée de Pantin, je veux dire, c'est très bien de prendre ces mesures quand on a des exigences sécuritaires plus fortes. C'est très bien qu'il y ait une garantie qu'elle puisse pas être prise n'importe comment.
Alors il y a aussi, je reprends les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui parlait de plusieurs arrestations, d'enquêtes ouvertes, qui concernent, je le cite, des dizaines d'individus, pas en lien forcément avec l'enquête, mais avec l'envie de faire passer un message.
Oui, ça c'est une phrase très politique. Presque contestable, parce que l'envie de faire passer un message, on pourrait le traduire par un message aux Français, c'est de la com, dans le mauvais sens du terme. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est de faire comprendre aux frontières du radicalisme, aux outils de la radicalisation, aux personnes qui flirtent avec tout ça, que c'est fini et qu'on va prendre des mesures sérieuses.
Les sénateurs, les républicains, il y a beaucoup de sujets qui touchent à la Constitution, c'est pour ça que je voulais vous recevoir absolument ce matin, Olivier Duhamel. Alors ça, c'était antérieur à l'attentat, mais ça a été voté lundi. Les sénateurs, les républicains qui ouvrent le débat pour lutter contre l'islamisme radical, renforcer la prééminence des règles de la République dans la Constitution, la laïcité, l'imposer aussi aux partis politiques. Il y a Marine Le Pen, qui est l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15, là aussi, on est dans le concours des idées. Elle parle de justice de guerre, il y a la question des fichiers S. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion, par exemple, sur les fichiers S, simplement. Juridique.
Non, sur les fichiers S, on ne peut pas tirer une conclusion sur les fichiers S. Il y a des fichiers S, d'abord, qui n'ont absolument rien à voir avec la radicalisation. Il y a des radicalisés qui ne sont pas dans les fichiers S. Donc, on ne peut pas plus dire les fichiers S que les Tchétchènes, que les ceci, que les cela. C'est aberrant. C'est évidemment cas par cas, association par association, mosquée par mosquée, radicalisé par radicalisé, que la question doit être traitée. Sinon, ce sont juste des mots. Le vrai danger, déjà, c'est d'utiliser ce terme de guerre. On n'est pas en guerre, on tire pas sur tout ce qui bouge, c'est un terme qui n'est pas adéquat. On mène un combat,
contre des actes terroristes et contre une idéologie radicale, fondamentalement anti-républicaine. La question, c'est comment on mène ce combat. Et quand j'entends dire, et donc, comme on est en guerre, il faut suspendre l'état de droit, c'est soit être ignorant, soit être d'une parfaite mauvaise foi, et en tout cas dangereux. Je vous explique en deux mots. L'état de droit peut très très bien prendre des mesures sécuritaires. Mais regardez, on va prolonger l'état d'urgence sanitaire. Si ce ne sont pas des mesures sécuritaires, l'état d'urgence sanitaire, qui vous empêche de sortir après 21h, et moi aussi, et tous nos auditeurs avec. Donc ce sont bien des mesures restrictives. L'état de droit, il y a une théorie des circonstances exceptionnelles qui permet au préfet de faire des choses qu'il ne ferait pas en temps normal.
Dans un temps donné et de manière très encadrée.
Et simplement, l'état de droit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces mesures sont prises dans le respect du droit. Ça veut dire qu'un préfet ne peut pas décider n'importe quoi, un législateur n'importe quoi, parce que le préfet, il aura le contrôle du juge administratif. Et on l'a vu dans la pandémie que de temps en temps, il y a des arrêtés préfectoraux qui ont été annulés. Et c'est une bonne chose.
Non mais alors, je vais retourner la question, Olivier Duhamel. Prenons le cas des sortants, par exemple, ceux qui vont sortir de prison. Ils ont été condamnés pour terrorisme, pour complicité de terrorisme. Ils ont purgé leur peine, ils vont sortir. Oui. Et on a le plus grand mal à autoriser une surveillance, par exemple, de ces individus ou un bracelet électronique, des mesures de sûreté.
Alors voilà ce qui se passe. D'abord, il y a des gens qui disent « Ah ben, il ne faut pas qu'ils sortent ». Et alors, avec bon sens, on se dit « Ah ben oui, il y a un risque terroriste, il ne faut pas qu'ils sortent ». C'est juste impensable que des gens qui ont été condamnés, qui ont exécuté leur peine, soient maintenus en prison. Ce serait bafouer un principe fondamental. Nulla pene sine lege, pas de peine sans loi. Un principe que quand on a exécuté sa peine, on a exécuté sa peine. D'accord ? Parce que sinon, c'est n'importe quoi. On pourrait dire aussi, bah torturons-les. Et puis dans le fond, dire qu'à les guillotiner tous. Parce que si on les guillotine, ils ne nous tireront pas. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Si on dit que la sécurité doit être absolue, sans limite, on devient une dictature. D'accord ? Donc, pour répondre à votre question, on ne peut pas les maintenir en prison. C'est impensable dans une démocratie et un état de droit. En revanche, évidemment qu'on prenne des mesures pour les surveiller, pour vérifier qu'ils ne repartent pas en radicalisation. D'ailleurs également pour les aider à se réinsérer. Et d'ailleurs pour ceux qui seraient sortis de la radicalisation, les aider encore plus. Ça, ce n'est pas que des mesures sécuritaires qu'il faut prendre. On croit toujours que tout va se faire par sécurité, sécurité, sécurité. Il faut évidemment... Ben alors,
tiens, je vais prendre un autre exemple. Un autre exemple sur cet argument-là de la sécurité.
Il faut évidemment la sécurité, mais il faut aussi travailler en amont pour empêcher la radicalisation.
Alors on parle beaucoup d'un phénomène qui n'existait pas au moment où la Constitution de la Ve République a été rédigée, la question des réseaux sociaux. Et en ce moment, il y a cet exercice intellectuel, finalement, celui d'une réduction des libertés, de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, pour préserver la liberté.
Oui. Eh bien, écoutez, là-dessus, on tape sur le Conseil constitutionnel. Moi, il m'est arrivé de critiquer le Conseil constitutionnel. Là-dessus, c'est un peu injuste. Parce que le Conseil constitutionnel, il a juste dit que ça ne pouvait pas être aux réseaux sociaux, aux responsables d'un réseau social, de décider si quelque chose est interdit ou pas. Et ça, c'est normal qu'il ait décidé ça. Ce qu'il faut, c'est imaginer une solution qui marche. Une solution qui peut marcher, ça peut être, par exemple, il y a un référé liberté. On peut s'adresser à un juge dans les 24 heures si on porte atteinte à notre liberté. Il pourrait y avoir un référé sécurité qui fait que sur une propos haineux sur les réseaux sociaux, un juge doit se prononcer dans les 24 heures. On peut trouver les solutions.
Est-ce qu'il faut changer cette constitution ? Tout le monde veut l'amender, rajouter des propositions, changer la constitution, ou est-ce qu'elle a déjà ce qu'il faut ? Et à travers là, est-ce que les sages du Conseil constitutionnel sont un contre-pouvoir ?
Écoutez, on dit changer la constitution quand on ne sait pas quoi dire. Hein. Quand on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on dit on n'a qu'à ajouter à la constitution que la laïcité, c'est un super, super principe. Tout ça, c'est pas ça qui changera quoi que ce soit, franchement. C'est pas ça qui changera quoi que ce soit. Il vaut mieux travailler sérieusement, dans la dentelle, les mesures de sécurité et travailler à fond. Et ça, ça concerne tout le monde, pas que l'État. Ça concerne la société, ça concerne les profs, ça concerne les parents d'élèves. Travailler pour lutter contre la radicalisation islamiste partout, tout le temps.
7h48, merci Olivier Duhamel. Quelques mots, je voudrais renvoyer nos auditeurs à ce podcast de 2018. Ceux qui s'intéressent à ces questions, la passion constitution, on peut encore le télécharger, encore l'écouter. C'est un podcast Europe 1 Studio avec vous, Olivier Duhamel. Et puis le samedi matin... Parce que là, on est mercredi, il est 7h48. Mais le samedi matin, dans ce studio, entre 10h et 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça ne sert à rien que je fasse les présentations du coup.
Non,
vous
c'est
connaissez
fait.
Bien tous les deux.
Vous avez juste l'impression qu'on est samedi, c'est tout.
C'est ça, mais on est bien mercredi, chers amis. Il est 7h49. L'édito politique de Catherine Ney, justement, dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite. Europe.
chaque matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h51.
Tout de suite, retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
L'édito politique avec Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Mathieu.
Ce soir, la France rend hommage à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne. Emmanuel Macron y fera un discours. Vendredi, accouru sur les lieux du crime, on le sentait dévasté. Jamais, dites-vous, jamais un quinquennat n'aura été aussi tempétueux.
Ah oui, parce que les crises, il les aura toutes eues. Lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, pulvérisant la droite, annonçant un nouveau monde, il avait peu d'expérience politique, 39 ans, mais sa ductilité intellectuelle laissait espérer le meilleur parce qu'il avait de la chance, n'est-ce pas ?
Oui, mais très vite, il a dû affronter une crise sociale parfaitement inédite.
Oui, le mouvement des Gilets jaunes pendant 6 mois, tous les samedis, qui se terminait dans la violence avec les Black Blocs, au grand désespoir des commerces, des restaurateurs, des touristes. Les policiers étaient épuisés, il y a eu des bavures. Alors Emmanuel Macron avait fait retomber la pression avec ses one-man shows interminables devant les maires, mais la réforme des retraites, mal ficelée, abandonnée, a enclenché une série de grèves. Mais au moins, il y avait des résultats économiques. Moins 8% de chômeurs, par exemple.
Ça paraît tellement loin aujourd'hui, tout cela. Et puis après cette crise sociale, la crise sanitaire, Catherine, avec l'arrivée du Covid.
Oui, merci les Chinois. Oui, crise dont on ne voit pas d'ailleurs l'issue. Après le confinement du printemps, à nouveau, 20 millions de Français sont soumis au régime du couvre-feu. Le chômage repart à la hausse, la pauvreté, donc l'exclusion, beaucoup d'activités ne s'en remettront pas. Alors, on colmate les brèches à grands coups de millions d'euros. De la monnaie de singe, aurait dit ma grand-mère.
Et puis, crise sécuritaire, le terrorisme.
Oui, heureusement pour le président, son discours sur le séparatisme date du 2 octobre, avant la décapitation du professeur d'histoire, où il désignait l'ennemi, l'islam radical, enfin sortant du déni dont l'accusait l'opposition, qui réclame aujourd'hui une adaptation du droit, voire de la Constitution. On attend des actes.
Emmanuel Macron n'avait, vous le disiez, pas d'expérience politique en arrivant à l'Élysée.
Oui, mais maintenant il en a une et il est chaque jour confronté à des problèmes dont la solution est toujours d'une complexité que ne peuvent soupçonner les yakas et les faucons. Les Français n'en peuvent plus. Mais le pire pour lui, voyez, à 18 mois de la présidentielle, serait que les Français se convainquent que cet homme si chanceux a épuisé son capital chance.
Merci Catherine Ney, l'édito politique. Il est 7h53.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. Et c'est bien sûr Jean-Marie Le Pen qui est venu coacher l'invité. Bonjour.
Oh. Oui, très heureux, n'est-ce pas, une fois n'est pas coutume, d'être invité dans l'émission Mediapolis et de monsieur Duhamel et madame Ney, n'est-ce pas? Et bonjour à vous, monsieur Blédard, c'est ça?
Enchanté.
Oui, ma fille me parle souvent de vous. Marek Blédard par-ci, Marek Blédard par-là. J'ai toujours eu des goûts exotiques que d'ailleurs je ne partage pas. Donc vous êtes monsieur Blédard, oui, bon, je m'attendais à mieux. Bref, je constate, n'est-ce pas, que le Rassemblement National est de rechef tendance, hype, comme disent les jeunes, monsieur. Mélenchon stigmatise les Tchétchènes, monsieur Pascal Pro fait des émissions spéciales islamisme 4 jours sur 5, monsieur Zemmour traite tous les mineurs étrangers de violeurs. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui nous reste à nous, n'est-ce pas? Et si on pille notre fonds de commerce, je vais tous les balancer à copie raciste, n'est-ce pas? Monsieur Blédard, ça ne vous dérange pas que je reste dans vos locaux? Donc ça m'arrange parce que je n'ai pas vu ma fille depuis 8 ans.
7h55, c'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. C'est sa première interview depuis l'attentat de vendredi, depuis la mort de Samuel Paty. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, à 8h15 sur Europe 1. Tiens, une autre question, un autre sujet pour Marine Le Pen. Je voudrais que vous entendiez cet extrait de l'interview de Gérald Darmanin hier soir. C'était sur BFM TV. Je le précise, ça ne concerne pas le projet de loi séparatisme, il l'a précisé lui-même. Mais le ministre de l'Intérieur va peut-être lancer une polémique. Il a expliqué qu'il se disait hostile aux rayons de cuisine communautaire dans les supermarchés. Écoutez.
Moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait, en arrivant, un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Il y a, dans la société civile, des gens qui aussi doivent comprendre que c'est pas parce qu'on a des parts de marché en flattant quelques bas instincts qu'on a rendu service au bien commun.
Une séquence qui va faire réagir, à n'en point douter, Marine Le Pen, notamment à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Il est 7h56. À suivre, le journal de François Geffrier.
Il est 7h58 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, la tempête Barbara qui sévit, il y aura forcément des dégâts parce que les vents sont vraiment très très importants. Je ne parle pas de la haute montagne, 216 km/h Irati, ça ne fait peur qu'au mouflon. Mais à Loudervielle, 130, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. À Luchon, 140. À Tarare dans le Rhône, 143. Ce ne sont pas des valeurs de haute montagne. L'avenir, que va-t-il se passer aujourd'hui? Dans les vallées, entre 80 et 110, ça va rester fort. Dans le vent d'Autan, pour le vent d'Autan, 80 à 110 également sur la montagne Noire et les Vézoux. 100 km/h à Toulouse ne sera pas à exclure. Près de Lyon, autour de 100, notamment Rive de Gier. Et dans les Cévennes, 90 avec des pluies très fortes, car ce sont des pluies cévenoles. Partout ailleurs, maintenant, je vais essayer de résumer le temps du ciel, enfin le côté ciel, sur le tout ce que. Partout il pleut, partout c'est humide, vous aurez un temps plus espacé, un ciel plus clairsemé, mais avec des averses. Et puis, les températures, elles restent extrêmement douces, entre 19 et 26 degrés dans le courant de la journée, 26 dans les Landes, 20 à Paris, 21 à Clermont-Ferrand, 22 à Lyon, 23 à Toulouse et 25 à Pau.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Quand son nom est apparu sur Internet, je m'y suis repris à 10 ou 20 fois pour relire ce nom et me dire « mais c'est pas possible, c'est arrivé à Samuel ».
Il l'appelle juste par son prénom, Samuel. Il avait passé sa jeunesse avec lui à quelques heures de l'hommage national. Un ami de Samuel Paty décrit à Europe 1 un homme d'une curiosité infinie qui aurait aimé apprendre tout sur tout. Alors que l'éducation nationale tout entière est meurtrie par cet assassinat, nous verrons ce que le corps enseignant attend du président de la République à la Sorbonne ce soir. On est très très limite dès maintenant. Les mots sont ceux du chef d'un service de réa à Paris. 100% de ces lits sont déjà pris par des patients Covid. Dans ce journal, Black Lives Matter, les vies noires comptent. Leur vote aussi. Joe Biden va-t-il réussir à mobiliser les Afro-Américains? Il a besoin d'eux pour devenir président des États-Unis. Et puis, 10% plus 10%, nous voilà déjà à la quatrième saison de la série française qui cartonne. Extrait et coulisses à la fin du journal.
Juste après ce journal, l'hommage cet après-midi, le débat politique déjà depuis plusieurs jours. C'est sa première interview depuis l'assassinat de Samuel Paty. Marine Le Pen qui appelle à une législation de guerre. La présidente du Rassemblement National au micro de Sonia Mabrouk à 8h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cela fait 5 jours que l'on parle partout en France de Samuel Paty, celui qui sera fait ce soir commandeur des Palmes académiques, décoré de la Légion d'honneur. N'était qu'un prof parmi 800 000 autres. Le voilà aujourd'hui symbole d'une liberté d'expression à défendre. Et vous allez comprendre un peu mieux ce matin qui était Samuel Paty avec le témoignage de celui qui fut son meilleur ami.
C'était au moment du lycée. 3 années passées ensemble jusqu'au bac littéraire à Moulins. Cet homme que vous allez entendre et qui a souhaité garder l'anonymat confie ses souvenirs à Jean-Gabriel Bourgeois, et sa détresse toujours aussi vive.
Samedi dernier, en début d'après-midi, quand son nom est apparu sur Internet, je m'y suis repris à 10 ou 20 fois pour relire ce nom et me dire « mais c'est pas possible, c'est arrivé à Samuel ». Oui, j'ai eu besoin d'en parler. J'ai eu besoin de dire que cette personne, je la connaissais, que j'étais très touché. Parce que c'était pas le simple camarade qui était assis 3 rangs derrière, non, c'était celui qui occupait la place à côté de moi. Bien sûr, je suis très très peiné pour leur famille. Je pense sans arrêt à eux. Il m'arrive de me réveiller la nuit et mes premières pensées vont vers eux, le petit garçon de Samuel, ses parents. Comment peut-on se remettre d'une telle atrocité ? On formait un binôme, hein. On était la plupart du temps assis l'un à côté de l'autre. On rigolait ensemble, on travaillait ensemble, parfois on réfléchissait ensemble. Un jour il a dit « je souhaiterais savoir tout sur tout ». Donc ça en disait long sur sa curiosité et sa soif de connaissances.
Il faut se mettre à sa place. Hein. Aussi, c'est aussi ça l'effet des médias, de cette émotion collective. Il apprend à la radio que cet homme tué, que ce prof décapité, c'était son ami d'enfance. Ce témoignage qui nous permet aussi de mieux connaître Samuel Paty, vous pouvez le réécouter sur europe1.fr.
Et comme en écho à ce que l'on entendait à l'instant, il y a ces mots de Brigitte Macron dans une lettre hommage que publie Le Parisien ce matin. « Être prof, dit-elle, c'est repérer une lueur que l'on a pu allumer dans les yeux des élèves, c'est développer leur esprit critique pour les rendre libres. » Les profs, justement, ils seront représentés ce soir dans la cour de la Sorbonne sous le regard des statues de Victor Hugo, de Louis Pasteur. Pour Europe 1, Virginie Riva a interrogé plusieurs enseignants sur leurs attentes pour ce soir.
Après la sidération de toute la profession, l'hommage qui sera rendu ce soir doit d'abord être, pour les enseignants, un hommage personnel à Samuel Paty et au-delà, une adresse à tous les professeurs de France. Frédéric Marchand, secrétaire général de l'UNSA Éducation.
Que le président de la République exprime pour l'ensemble de la communauté éducative ce soutien de la nation à son école, à ses enseignants, c'est important.
Le ministère de l'Éducation nationale a suggéré la lecture de la lettre d'Albert Camus à son instituteur, écrite en remerciement peu de temps après son Nobel, pour réaffirmer le rôle central de l'enseignant dans la République. Oui, mais il faut que le président en tire des leçons, explique Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES.
Ça suppose qu'on aide les enseignants à faire leur métier, qu'on leur assure aussi toute protection et tout soutien quand ils rencontrent des difficultés, puis que font dire à des drames comme ça a été le cas pour Samuel.
Ce soir, les enseignants se rassembleront un peu partout en France, en Bretagne, dans l'Indre, dans les Pyrénées-Atlantiques notamment, pour s'associer à l'hommage dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
Dans l'enquête sur cet attentat, les 16 gardes à vue ont été levés hier soir. 7 personnes seront présentées aujourd'hui à un juge.
Notamment ce parent d'élève qui avait appelé à la mobilisation contre Samuel Paty, ainsi que 2 collégiens soupçonnés d'avoir reçu de l'argent de l'assaillant. On note aussi cette phrase glaçante de celui qui est ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin prévient « La question n'est pas de savoir s'il y aura encore un attentat, mais quand ». C'est ce qu'il déclarait hier soir à la télévision.
8h05 sur Europe 1. La deuxième vague du coronavirus commence à monter très haut en France, particulièrement en région parisienne.
660 patients en réanimation en Ile-de-France et les lits dédiés qui s'épuisent. C'est déjà le cas à l'hôpital Bichat à Paris, annonçait ce matin sur Europe 1 le professeur Jean-François Timsit en parlant du taux d'occupation de son service.
C'est 100%. Il va falloir commencer à pousser les murs. Notre seule marge de manœuvre est de déprogrammer de la chirurgie qui peut attendre un peu. On va arriver à une certaine saturation du système sanitaire avec pas beaucoup de possibilités de renfort de l'extérieur. Donc on est assez inquiet sur la possibilité de faire monter le nombre de lits de réanimation en France à des niveaux très très élevés. Les 12 000, on les atteindra jamais, mais réatteindre les 8 000 qu'on avait atteint début avril va être extrêmement complexe. Tout le monde est mobilisé pour essayer d'aider au mieux, faire vraiment attention dans la sphère privée, d'essayer de limiter au maximum les contaminations. Chaque jour, quand j'entends 30 000, ça veut dire 200 à 300 nouveaux décès dans 3 semaines.
Jean-François Timsit, chef du service de réanimation à l'hôpital Bichat, c'était ce matin en direct à 6h40 au micro de Sébastien Krebs sur Europe 1.
Aux États-Unis, un ancien président va faire campagne aujourd'hui. Barack Obama sur le terrain pour la première fois en faveur, bien sûr, de Joe Biden. Ce sera à Philadelphie où il devrait insister sur l'importance du vote des Afro-Américains.
Et ce vote, c'est le thème de notre carnet de route de la présidentielle américaine. Europe 1. I promise you this. I am your voice. The American election. Avec Théo Manval, comme chaque matin à 8h dans le Wisconsin aujourd'hui. Bonjour Théo.
Bonjour à tous.
C'est aussi un état clé, hein, le Wisconsin, avec un vote qui s'annonce serré. Joe Biden a besoin du vote de la population noire. On se souvient de toute la colère exprimée lors du mouvement Black Lives Matter.
Théo, vous êtes à Kenosha, une ville secouée par des affrontements cet été, après qu'un policier blanc a tiré 7 fois dans le dos d'un homme noir, Jacob Blake.
Oui, et la ville porte encore les stigmates des nuits d'émeutes qui ont suivi et qui ont fait 2 morts, des dizaines de carcasses de voitures calcinées encore sur les parkings, presque tous les magasins du centre-ville toujours calfeutrés, derrière de grandes plaques en bois recouvertes de tags Black Lives Matter. On sent encore cette colère qui anime notamment Cheryl, et elle compte bien la porter jusque dans les urnes.
Oui, j'irai voter. On ne peut pas continuer à survivre comme on le fait jusqu'à présent. Tout ce racisme, ce qui s'est passé ici, ils ont tiré 7 fois sur Jacob Blake dans son dos alors qu'il retournait à sa voiture. Il faut que ça change et pour ça je crois en Joe Biden. Il prend position contre le racisme systématique.
L'ancien bras droit d'Obama aura son vote. Elle a vérifié qu'elle était bien enregistrée sur les listes électorales grâce aux associations de quartier comme celle de Greg. Lui aussi veut croire que le mouvement Black Lives Matter pourra mener à plus de Black voters.
On a inscrit plus d'un millier de personnes sur les listes. Mais j'ai aussi 30% des gens qui me disent « j'irai pas cette fois-ci ». J'ai toujours voté, j'ai manifesté, mais regarde à quoi ça a mené. George Floyd s'est fait tuer dans le Minnesota. Jacob Blake s'est fait tirer dessus ici. Mais on doit convaincre ces 30%, les ramener peut-être à 15%. Il faut voter, voter, voter.
Un effort qu'il dirige notamment en direction des plus jeunes, dont l'énergie laisse parfois déjà place à la lassitude, comme pour Derino, tout juste majeur, et déjà désabusé.
Voter pour moi, ça sert à rien. Il n'y aura
aucun changement. Ce sera toujours dur de trouver un boulot comparé aux blancs. Les policiers sont toujours agressifs avec nous. On a eu Obama et même ça, ça n'a rien changé.
Mais dans tout le pays, les chiffres sont là. En Caroline du Nord, en Géorgie, où le vote anticipé a commencé, la participation de l'électorat noir atteint des sommets dès les premiers jours. Ici, une marche a rassemblé hier des centaines de personnes pour appeler à voter le 3 novembre. Trump a remporté le Wisconsin pour moins de 30 000 voix la dernière fois, rappelle Cheryl. Chaque vote va compter.
Théo Manval dans le Wisconsin aux États-Unis. Et demain, Théo, ce vote par courrier que Donald Trump accuse de tous les maux, vous nous en parlerez dans le journal de 8 heures. Nous serons au matin du nouveau débat avec Joe Biden.
Vous restez bien avec nous. Dans un instant, le retour de la bande infernale de 10%. La saison 4 de la série démarre ce soir sur France 2.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h11. La suite du journal, François Geffrier.
10%, c'est l'histoire d'une série qui cartonne, qui n'est pas américaine et même particulièrement française. 10%, saison 4, diffusée ce soir sur France 2, qui nous raconte le quotidien d'agents de stars.
Et nous accueillons Eva Rock, notre spécialiste série. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La série est réputée entre autres pour la qualité de ses personnages, plus vrais que nature.
On est bien d'accord, les comédiennes et comédiens chouchoutés par les agents, ils sont décrits comme capricieux, misanthropes, angoissés, voire les trois à la fois. Particularité de la série, les stars jouent leur propre rôle avec beaucoup d'autodérision, comme Charlotte Gainsbourg ce soir. Elle a accepté de tourner dans le film de son meilleur ami, même si elle sait que cela risque d'être un naufrage. Conversation avec son agent, Andrea.
Je vais rien lui dire, je vais le faire ce film.
Quoi ?
Mais au final, ce sera peut-être bien.
Charlotte, là, ça va être un navet.
Mais alors, tout le monde fait des navets. Il y en a, c'est pour payer leurs impôts, ben moi, ce sera par amitié.
Alors, dans cette saison 4, vous aurez également rendez-vous avec Sandrine Kimberlin, Muriel Robin, Jean Reno, Franck Dubosc et José Garcia.
Est-ce qu'il y aura une saison 5 ?
Alors, regardez le dernier épisode tel qu'il est écrit, on se dit que non. Sauf que réalisateurs et comédiens ont très envie de prolonger l'aventure au moment où, par ailleurs, des stars internationales rejoignent la série avec un immense plaisir. C'est le cas de Sigourney Weaver, invitée de l'épisode 5, qui offre un numéro de danse digne d'une comédie musicale sur cette terre. Et 10%, c'est 6 épisodes à voir sur France 2 tous les mercredis et les 3 précédentes saisons sont disponibles sur Netflix.
Un air de Marseillaise un peu jazzy, c'est ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça.
Merci. Pour tout savoir sur cette saison, nouvelle saison de 10%, on télécharge le podcast Sériland. J'ai entendu un podcast hier mis en ligne avec,
avec Christelle Graillot, exactement.
Un agent qui nous dit que c'est plus vrai que nature. Merci beaucoup Eva Rock.
Ça s'appelle donc Sériland, votre podcast. À propos de loi des séries, le PSG trébuche de nouveau face à Manchester United. Défaite à domicile 2-1 hier soir en Ligue des Champions.
C'est dommage, on finissait bien ce journal.
Rennes a fait match nul un partout face aux Russes du FC Krasnodar.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invitée, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, adapte un ton grave et martial face à la barbarie islamiste. Ses propositions, sa première réaction aux annonces de l'exécutif après la décapitation de Samuel Paty, c'est ce matin sur Europe 1.
A tout de suite, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National.
Bienvenue à vous et bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Tout à l'heure aura lieu un hommage national dans la cour de la Sorbonne en mémoire à Samuel Paty. Serez-vous présente ?
Évidemment.
C'est important, ce sera un moment évidemment d'union nationale et au-delà.
Bien sûr, c'est important. Je suis moi-même allé rendre hommage à Samuel Paty en déposant un bouquet devant le lycée où il enseignait. Nous avons hier fait un hommage avec l'ensemble des députés sur les marches de l'Assemblée nationale et je serai bien sûr ce soir à la Sorbonne.
Il y a l'émotion, l'hommage, il y a l'action. Emmanuel Macron a annoncé la dissolution du collectif Cheikh Yassine tout à l'heure en Conseil des ministres, dans le viseur aussi le collectif contre l'islamophobie. Est-ce que selon vous, il y a une vraie volonté d'assécher le terreau de l'idéologie islamiste ?
Je le souhaite et je vais regarder évidemment avec beaucoup d'attention ce que le gouvernement proposera. J'accompagnerai toutes les mesures qui vont dans le bon sens, bien sûr. Je tenterai de les améliorer quand elles ne m'apparaissent pas suffisantes. J'entends véritablement avoir un comportement très constructif parce que je pense sincèrement que le fondamentalisme islamiste est un des majeurs dangers qui pèsent sur notre pays aujourd'hui. En revanche, je ne servirai pas de caution au gouvernement. Je n'accepterai plus aucune excuse, plus aucune compromission, plus aucune des petites lâchetés qui ont créé la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et j'attirerai l'attention du gouvernement sur la vision globale qu'il doit avoir. Car c'est bien de dissoudre une association, mais il y a l'association d'à côté qui peut-être est encore plus dangereuse. Je pense notamment à l'UOIF, dont je demande la dissolution depuis des années, qui depuis des années dans ses congrès fait intervenir des imams qui sont des imams qui professent la haine. Je pense à Youssef El Karadawi. Nous étions intervenus pour exiger de Nicolas Sarkozy, qui l'avait fait d'ailleurs, de l'empêcher de venir sur le territoire national. Bien, l'UOIF, pour l'instant, n'est visé par aucune procédure. Et puis, au-dessus, il y a la politique globale d'immigration auquel il va aussi falloir s'attaquer, car si on n'assèche pas, encore une fois, le terreau du communautarisme qui est l'immigration massive, alors on n'assèchera pas le terreau du fondamentalisme islamiste qui est le communautarisme.
Mais vous avez entendu le gouvernement parler justement de sa volonté de diminuer ou de réduire, de toucher à l'immigration ?
Non, absolument pas. Il y a 425 000 personnes qui entrent chaque année dans notre pays. C'est absolument considérable. Les critères qui sont posés sont des critères d'une faiblesse qui nous empêche de nous protéger de gens qui sont des gens nocifs. Je pense évidemment à la famille du terroriste tchétchène, hein, qui a été autorisé à obtenir le droit d'asile, alors même qu'il était clair qu'ils avaient eu par le passé des rapports avec des terroristes tchétchènes.
Et Madame Le Pen, on peut préciser à ce sujet que c'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, avait refusé de donner le statut de réfugié tchétchène à cette famille en 2011, et c'est la justice administrative qui leur a accordé. Oui, ça il y a une responsabilité selon vous
ça commence à faire, ça commence à faire beaucoup, parce que ça fait deux fois. C'était déjà le cas, me semble-t-il, pour le terroriste pakistanais qui a effectué son acte terroriste à côté de Charlie Hebdo. Lui-même avait été autorisé comme mineurs isolés, alors qu'il n'était pas mineur, comme l'immense majorité d'ailleurs des mineurs isolés que nous recevons chaque année en France. 40 000, je vous le rappelle, qui coûtent chacun 50 000 euros par an, c'est-à-dire 2 milliards d'euros qui sont dépensés ainsi. Donc il faut véritablement que le gouvernement donne maintenant une direction générale à la justice, avec des consignes claires au procureur, à l'administration, à la hiérarchie des enseignants.
Parce que vous estimez que les services de l'État ne sont pas suffisamment éveillés à cette menace. Vous avez dit tout à l'heure une somme de lâcheté. Est-ce que pour vous, l'administration, les services de l'État ne sont pas suffisamment au fait de cette guerre qui nous est opposée ?
Ça me paraît tout à fait évident. Nous en avons des preuves tous les jours. Et la dernière preuve est la situation qui a été faite à Samuel Paty, qui, manifestement, comme beaucoup d'autres enseignants, sont abandonnés face aux atteintes à la laïcité, abandonnés face aux pressions qui sont effectuées par des parents qui sont imprégnés de cette idéologie islamiste. C'est le pas de vague dont on avait déjà parlé il y a plusieurs mois. Leur hiérarchie leur dit pas de vague, ne faites pas de rapport, et puis excusez-vous, et puis j'en passe des meilleurs. Et je vous rappelle tout de même qu'on vient d'apprendre que Samuel Paty a été convoqué par le commissariat pour répondre d'une accusation projection d'images pornographiques auprès d'un mineur. Vous imaginez l'humiliation qu'il a subie.
On a également appris, Madame Le Pen, c'est le ministre Jean-Michel Blanquer qui le dit, qui dément avec force le fait que Samuel Paty ait été menacé d'une sanction du fait de son cours sur la liberté. Pour vous, là encore, il y a malgré tout des responsabilités.
Moi, j'écoute les enseignants. Objectivement, je les écoute. Et les enseignants, ils disent tous que confrontés à ces revendications islamistes permanentes, ils n'ont pas le soutien de leur hiérarchie. Voilà, c'est clair. Pourquoi ? Parce que partout s'est diffusée l'idée, dans l'administration, parfois même dans la police, aux grandes dames des policiers, dans l'enseignement, que s'opposer à ces revendications islamistes, c'était être islamophobe. Et chacun craint cette accusation d'islamophobie. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça. Car la réalité, c'est que ce concept d'islamophobie a été justement créé par les islamistes pour empêcher toute réaction aux revendications qui sont réclamées. Le problème, c'est que chaque revendication qui est acceptée entraîne une nouvelle revendication.
Alors comment on fait ? Comment on fait pour stopper cette somme de lâcheté et de renoncement ? Est-ce que pour lutter contre la barbarie islamiste, est-ce qu'il faut élargir ou même sortir carrément de l'état de droit ?
Non, pas du tout. Absolument pas. Il faut des lois d'exception, il faut des juridictions d'exception. Vous imaginez bien que pour gérer cette problématique qui est fondamentale, il faut des magistrats qui soient spécialisés, mais il faut aussi des lois qui soient spécifiques. On peut parfaitement avoir des lois d'exception dans un état de droit, mais d'ailleurs, nous y sommes. Excusez-moi de vous dire que l'état d'urgence sanitaire, c'est une loi d'exception. Et pourtant, nous sommes dans un état de droit, c'est-à-dire que nous sommes dans un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit, fondée sur le principe du respect des normes juridiques, chacun étant soumis au même droit, que ce soit un individu ou la puissance publique.
C'est important ce que vous dites, Madame Le Pen. C'est-à-dire, si je reprends vos propositions, vous, donc législation de guerre, mais avec respect de l'état de droit, vous dites qu'il faut des procédures judiciaires et policières spécifiques, qu'il faut une surveillance très étendue. Vous allez jusqu'à l'indignité nationale, mais au risque, Marine Le Pen, que ces dispositions soient retoquées, par exemple, par le Conseil constitutionnel.
Mais non, recréer la peine d'indignité nationale, elle a existé. Il suffit de la recréer. Elle permet de condamner à une peine de dégradation nationale qui entraîne toute une série de conséquences. Interdiction de diriger une association, interdiction de voter, interdiction de diriger une entreprise. C'est-à-dire que on met en quelque sorte sous tutelle les gens dont on considère s'ils sont français, qu'ils encourent l'indignité nationale. Mais avant de faire tout ça, il faut aussi expulser les binationaux qu'on aura déchus de leur nationalité pour islamisme, et puis évidemment, en premier lieu, expulser les étrangers.
Fiché S pour islamisme, c'est ce que vous dites. Oui. Aucun étranger fiché S pour islamisme en situation irrégulière ou régulière ne doit pouvoir rester en France. Mais comment faites-vous, Madame Le Pen, pour contraindre les pays d'origine à récupérer ces fichés S ?
Ah, c'est une vraie question, mais c'est une question relativement simple. Il faut que notre diplomatie soit en accord avec notre intérêt.
Elle ne l'est pas ?
Ben non. Non, enfin, je veux dire, on parle du Maroc, on parle de l'Algérie, mais du Mali, parce que le Mali est un spécialiste pour refuser de reprendre ses compatriotes. On peut parler des Comores aussi. Mais dites-moi, combien d'argent on verse au Mali chaque année ? Combien d'argent on verse par l'intermédiaire de l'Union européenne ? Combien d'argent on verse directement de la France ? Combien d'argent part
donc
des ressortissants ?
Donc taper au portefeuille pour obliger
sûr,
ces pays à récupérer leurs
évidemment,
les fichiers S
Combien de ressortissants maliens envoient chaque mois l'argent qu'ils ont gagné en France vers le Mali ? Il faut serrer la vis. On ne peut plus aujourd'hui faire preuve de faiblesse à l'égard de pays qui ne respectent pas le droit international.
C'est important, c'est-à-dire, Madame Le Pen, si vous étiez aux responsabilités, par exemple, par rapport au président algérien, vous lui dites « Moi, je suis prête à taper dans le portefeuille si vous ne récupérez pas vos fichiers S, malgré toutes les conséquences, puisqu'avec
mais
ce pays, on a des liens
très
forts. »
Écoutez, si vous ne les récupérez pas, c'est clair, je vais dénoncer la convention qui nous lie et qui fait que l'immigration des Algériens vers la France est probablement l'immigration la plus facilitée de tous les pays du monde. On ne peut pas, ils ne peuvent pas avoir que des avantages et n'avoir aucun inconvénient. Oui, je crois qu'il est temps de sévir. Et de manière générale, avec cette législation de guerre, il faut que la fréquentation des islamistes devienne radioactive.
C'est-à-dire concrètement, comment ?
C'est-à-dire concrètement qu'à partir du moment où on a des relations avec un islamiste, eh bien, on prend le risque de se le voir reprocher légalement, d'être convoqué, comme l'a été scandaleusement Samuel Paty devant un commissariat, de devoir s'expliquer sur la fréquentation des associations islamistes, des structures islamistes, des mosquées islamistes.
Vous parlez de cette législation de guerre d'exception, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, affirme que ce qui distingue la civilisation de la barbarie, c'est la règle de droit.
Il a raison.
Il a raison sur ce point.
Mais il a parfaitement raison. Mais comme je vous l'ai dit, la loi d'exception peut parfaitement exister à partir du moment où elle a été votée et où elle est intégrée dans le système judiciaire
français. Pourquoi s'inquiète-t-il ? Parce qu'il dénonce une exploitation, une surenchère à des fins politiciennes. Il dit que cela le dégoûte. Il vise l'opposition et vous-même.
Oui, mais M. Dupond-Moretti a un problème. C'est qu'il a été toute sa vie le défenseur, je suis désolé de le dire, des criminels et des délinquants. Donc il en reste très probablement des traces. Et il aime plus être applaudi à Fleury-Mérogis par les détenus que par les gardiens.
C'est une grave accusation.
Le problème, il est aujourd'hui garde des Sceaux. Non, c'est pas une grave accusation. C'est qu'il est resté avocat dans l'âme. Avocat pénaliste dans l'âme. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est d'un ministre de la justice. C'est-à-dire qu'il s'occupe des victimes d'hier, des victimes d'aujourd'hui et hélas des victimes de demain.
Madame Le Pen, pour conclure, comment fait-on pour lutter avec la plus grande fermeté contre l'islamisme sans tomber dans l'engrenage d'un conflit larvé et d'un choc avec des Français de confession musulmane et qui le vivent très bien dans leur grande majorité ?
Mais ils sont eux-mêmes victimes. Ils sont eux-mêmes victimes des islamistes et bien souvent, ils vivent ensemble puisqu'on a fait des quartiers où on a accueilli une immigration massive. Comment voulez-vous qu'eux-mêmes puissent faire face à cela ? À partir du moment où l'État n'a même pas le courage de s'attaquer aux islamistes. Donc évidemment, cette minorité violente impose à tous, musulmans laïcisés, juifs, chrétiens, athées, ses exigences, sa pression et sa volonté d'imposer les lois religieuses. Donc on va défendre tout le monde en s'attaquant aux islamistes.
Et pour conclure, concrètement, est-ce que vous accompagnerez, si le projet de loi sur le séparatisme est musclé, est-ce que vous l'accompagnerez?
Mais je l'accompagnerai de toute façon. Même si ça n'est qu'un pas sur les 1000 pas qu'il faut faire, de toute façon, c'est mieux que absolument rien. Mais je dis qu'on perd du temps chaque jour et que le temps perdu, peut-être un jour, ne pourra pas se rattraper.
Vous voterez pour,
c'est maintenant qu'il
même
faut
si
agir.
C'est pas suffisant à vos yeux, vous voterez pour.
Très certainement, oui. Mais j'essaierai, par tous les amendements que nous déposerons, de rendre cette loi efficace, car j'ai vu trop de lois sur ce sujet être totalement inefficaces. D'ailleurs, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'elles ont toutes, en réalité, été inefficaces.
Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur Europe 1.
Merci à vous.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1, l'info, Hélène Zélani, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed et notre planète Fanny Agostini. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h32 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info, Hélène Zélani.
Et d'abord l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. 7 suspects seront présentés à un juge antiterroriste dans la journée. Il pourrait les mettre en examen. Parmi eux, Gladys Laffitte, 2 collégiens.
Oui, ils sont soupçonnés d'avoir désigné Samuel Paty au tueur quelques heures avant l'attaque contre une récompense de 300 euros. Pour les enquêteurs, cela fait peu de doute. Les adolescents ne pouvaient pas ignorer l'issue violente de la démarche du tueur. 3 amis du terroriste seront aussi présentés à un juge antiterroriste. Et puis il y a ce parent d'élève, il a échangé des messages pendant plusieurs jours avec l'attaque, avec le terroriste. A priori via une messagerie cryptée comme WhatsApp, mais de quoi ont-ils parlé? C'est là tout l'enjeu, car si l'assaillant lui a fait part de son projet, pourquoi n'a-t-il pas prévenu la police? Et l'a-t-il incité à passer à l'acte? Ce sont ces éventuelles complicités que cherchent les enquêteurs. Des questions qui se posent aussi à l'encontre du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, ami du père de famille. Lui aussi sera présenté à un juge antiterroriste.
Gladys Laffitte, et aujourd'hui justement le collectif pro-palestinien de ce militant islamiste sera dissous en Conseil des ministres. Ce sera la photo du jour, 400 invités dont une centaine d'élèves dans la cour de la Sorbonne. Hommage national à l'enseignant assassiné. Marine Le Pen disait à l'instant sur Europe 1 qu'elle serait présente. La cérémonie commencera à 19h30. Juste avant, Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à titre posthume en présence de la famille de Samuel Paty. Les chiffres montent désormais très vite, trop vite, cri d'alarme de l'agence de santé de la région parisienne. 655 malades du Covid en réanimation hier et ils occupent 60% des lits. L'Irlande devient le premier pays de l'Union européenne à reconfiner toute sa population pour 6 semaines, avec, selon le Premier ministre, l'espoir de célébrer Noël correctement. Le foot, la suite des rencontres de Ligue des Champions. Ce soir, l'OM se déplace en Grèce sur le terrain de l'Olympiakos. Hier, le PSG a raté son retour, défaite de 2-1 face à Manchester United. Match nul un partout entre Rennes et les Russes de Krasnodar. Et puis, avis aux fans d'Astérix, le Menhir d'or sort aujourd'hui. Une aventure méconnue du petit Gaulois, restaurée à partir d'un livre-disque de 1967. Elle se présente en 2 volets, un album papier et une version audio dans laquelle on entend enfin le barde Assurance Tourix essayer de pousser la chansonnette.
Menhir montagne, mais oui madame.
Voilà, Assurance Tourix dans le Menhir d'or qui sort aujourd'hui.
Un livre disque, mais quel coup de vieux vous nous mettez ce matin, Hélène Zélani.
Vous n'étiez pas née en 1967.
Non, en 67, non. J'ai eu des livres disques quand même. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore. Il y a des livres avec des petites musiques intégrées. Bon, c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Hélène Zélani. 8h35, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
À propos d'Assurance Tourix, je crois que ce sera
le vous chantez, Laurent, vous
le
chantez.
Mot du jour. Non.
Mais il m'entend, allez-y.
Mais je voulais dire par là que compte tenu des rafales de vent qu'il y a, je crois que les assurances vont devoir œuvrer aujourd'hui. Alors, je voudrais être plus clair que tout à l'heure, je n'ai pas été très concret. Sachez que partout où il pleut en ce moment, où le ciel est couvert, où il pleut, les pluies vont s'espacer, le ciel va s'ouvrir un tout petit peu et nous aurons un régime d'averse. Donc, on va vers des averses. Les vents viennent du sud. Ils sont très violents. Je rappelle pas les valeurs, parce que c'est tout, sont des valeurs d'ailleurs qui sont arrivées récemment, toutes nouvelles, 200 et quelques sur la haute montagne, 120, 130 dans les vallées, enfin vraiment des vents très très méchants. Et l'avenir pour aujourd'hui, et ces vents vont perdurer. Dans les vallées, 90 à 110, le vent d'autant 80 à 110, à Toulouse, près pas loin de 100, près de Lyon, pas loin de 100. Vous voyez, ce sont des valeurs extrêmement élevées. Et puis, je voudrais parler maintenant de la douceur. La douceur qui est exceptionnelle. Ce matin, il faisait entre 9 et 18 degrés. Cet après-midi, entre 19 et 26 degrés. Donc, nous aurons un temps extrêmement doux puisque les vents viennent du sud. Un dernier mot pour vous dire que les valeurs de vent des Cévennes, par exemple, 100-110 km/h, sont dues, bien sûr, à un petit épisode cévenol qui va se manifester dans le Languedoc et dans les Cévennes en général.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h36 à suivre, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed et notre planète. Fanny Agostini va nous parler de ces champignons qui peuvent dégrader le plastique. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h37, notre santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, vous allez nous parler d'une étude de l'INSERM à propos des formes graves de Covid. Il serait possible, écoutez bien, avec une prise de sang, de prédire les patients qui risquent de se dégrader.
Oui, tout part de l'étude des patients diabétiques. On sait qu'ils sont des personnes qui vont faire des formes plus graves, plus que par exemple des asthmatiques. Mais on ne savait pas exactement pourquoi. Et du coup, les chercheurs se sont intéressés à savoir s'il n'y aurait pas une signature immunitaire ou inflammatoire de ces patients qui font des formes sévères. Et pour ça, ils ont étudié 45 malades hospitalisés pour des formes de Covid, dont 30 diabétiques. Les résultats sont plutôt intéressants puisque tout d'abord, on se rend compte que les patients diabétiques sont effectivement plus nombreux à faire des formes sévères. Et quand on s'intéresse à tous les patients qui font des formes graves, diabétiques ou pas, on se rend compte que sur la prise de sang, ils ont des éléments particuliers, notamment des lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont une sous-catégorie de globules blancs qui sont plus bas. Et si on s'intéresse à des lymphocytes un peu plus particuliers, il y a une sous-catégorie qui est responsable de la lutte contre les infections virales qui est en plus faible quantité. Et donc on comprend qu'ils vont faire des formes plus graves. Mais aussi, lorsqu'on regarde toujours cette prise de sang, on se rend compte qu'il y a d'autres globules blancs qu'on appelle des monocytes qui, eux aussi, sont plus bas, notamment dans les formes sévères, avec une morphologie différente, c'est-à-dire qu'ils ont un aspect différent des autres. Donc avec ces deux paramètres simples, on pourrait prédire la gravité d'une forme de Covid.
Du coup, il serait possible d'adapter, j'imagine, la surveillance des patients Covid en fonction d'une prise de sang, une simple prise de sang qu'on pourrait faire en laboratoire, Jimmy ?
Exactement, une simple prise de sang classique que vous pouvez faire lorsque vous faites des bilans. Et donc avec ces deux paramètres, les lymphocytes et les monocytes, le médecin traitant, le médecin généraliste, pourrait peut-être adapter le suivi. Parce que pour l'instant, quand on voit des malades, on se doute que certains vont faire des formes graves, mais on n'en est pas certain. Et donc là, peut-être que si jamais on a ces paramètres inquiétants, on pourrait se dire, tiens, on va les suivre un peu plus régulièrement, on va adapter et faire de la télémédecine, puisque souvent ces malades ont du mal à se déplacer au cabinet car ils sont abattus. On peut peut-être aussi leur proposer une surveillance à domicile avec, vous savez, l'oxymètre qui permet de mesurer le taux d'oxygène. Et chez certains, lorsque vraiment on se rend compte qu'ils sont en risque, peut-être les faire hospitaliser avant même la dégradation de leur état pour gagner du temps. Sauf que malheureusement, en ce moment, les services sont saturés. Donc, pour éviter d'en arriver là, évidemment, je vous le rabâche, je sais que vous en avez marre, mais il faut porter un masque et réduire vos interactions sociales. On a parlé de la règle des 6, où il fallait se réunir un maximum 6. Moi, je pense qu'il faut désormais se réunir à 0. Il ne faut plus se réunir. Je sais que c'est pénible de l'entendre, mais là, vraiment, 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 le confinement nous guette. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Il est possible que ce confinement nocturne ne soit pas suffisant. Donc, vraiment, je vous incite tous à essayer au maximum de réduire vos interactions sociales.
Merci, Jimmy Mohamed, notre médecin, le médecin d'Europe 1 que vous retrouvez de 15h à 16h, l'émission Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez. Il est 8h40. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre planète, vous vouliez ce matin, Fanny, nous parler d'une sorte très particulière de champignons.
Oui. Alors c'est ce que j'ai appris lors de ma dernière sortie, j'y suis allée toute seule, de ma dernière sortie champignon, qui m'a absolument émerveillée. Je vais vous dire, quand on entre dans le monde du champignon, on accède à un univers magique qui nous offre une lecture du monde basée sur la coopération. Enfin ça c'est dans la plupart des cas, la plupart du temps. Dans la nature, vous le savez, il y a les champignons symbiotiques, ce sont ceux qui vont vivre en association avec les arbres, une relation quasi amoureuse, un partenariat gagnant-gagnant dans lequel arbres et champignons vont s'apporter mutuellement eau et nutriments. Et puis, il y a les autres, les saprophytes. Très facile à retenir car on peut dire que ceux-là sont des profiteurs. Ils vont vivre aux dépens des arbres en les digérant. Sapro, qui signifie en grec pourrir, et phyte, qui veut dire se nourrir. Ces champignons, en effet, s'attaquent surtout aux vieux arbres et aux bois morts. C'est pourquoi on dit qu'ils sont les fossoyeurs, les éboueurs des forêts, car ils vont ainsi les nettoyer.
Ils sont aussi redoutables pour nos constructions en bois.
Ah oui, oui, vous avez peut-être déjà entendu parler d'histoires assez dingues de maisons qui s'écroulent d'un seul bloc dans un spectaculaire fracas. Les victimes sont souvent les vieilles bâtisses avec des planches ou charpentes en bois avalées par la mérule, qui est un champignon saprophyte. Cette mérule qui s'infiltre dans les poutres en déployant de tout petits filaments s'étendant de plus d'un mètre par mois et détruisant très vite une maison entière. Il y a un exemple connu aussi, cette fois-ci dans le registre naval. C'est au début du 19e siècle que la flotte de l'amiral Nelson a été vaincue car coulé par ce champignon glouton qui s'était installé dans la double coque des navires anglais, mettant à genoux la première puissance maritime au monde.
Présentés comme cela, ces champignons semblent diaboliques, mais vous nous dites, qu'ils seraient capables de manger du plastique.
Mais oui, mais c'est là où ça devient très très intéressant, éliminer le plastique dans la nature grâce aux champignons. C'est en observant que la dégradation du plastique dans le sol se faisait beaucoup plus rapidement lorsqu'on y ajoutait un champignon, ça profite, que des chercheurs ont eu l'idée, effectivement, d'en faire un allié pour épurer l'environnement. Les champignons, ça profite, profiteraient alors de nos déchets en les grignotant, une réponse fongique à la pollution plastique qui est pour l'instant assez récente, hein, assez balbutiement, mais qui ouvre quand même de grands, grands espoirs pour l'avenir.
On va espérer, grâce à vous, Fanny Agostini, Notre Planète. Merci Fanny, 8h43. À suivre... Pardon monsieur, à suivre, vous les attendiez, Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore en studio, Marine Le Pen et Sonia Mabrouk.
Et je reçois en effet Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Marine Le Pen, y a-t-il une vraie volonté pour vous du gouvernement d'assécher l'islamisme radical en France, Marine Le Pen ?
Écoutez, pas suffisamment. Je vais d'ailleurs vous faire à ce titre un cours de jardinage et de chimie. Vous avez tout le monde a sa petite blouse, tout le monde est prêt avec sa petite éprouvette, sa petite blouse blanche. Vous prenez du terreau islamiste. Et à partir de là, il faut dissoudre, tout dissoudre. Il faut dissoudre les associations douteuses, dissoudre l'UOIF. Je veux dissoudre M. Youssef El-Kardawi. Et puis, il faut ensuite rendre tout cela radioactif. Tous ceux qui sont en contact de ce terreau, il faut même dissoudre d'ailleurs. Et dissoudre, c'est pas cher, comme dirait M. Bourville.
Oui, tiens. Moi, en tout cas, moi, ça marche pas parce que. Moi, c'est peut-être parce que j'ai pas d'éprouvette, j'ai qu'un alambic, moi.
Ah bon, Julie ?
Merci beaucoup. Allez, Mathieu, c'est à vous pour l'actualité.
Oui, oui. Bonjour, ma chère Julie. Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1. On a vécu cette interview événement il y a quelques minutes de Marine Le Pen sur Europe 1. Mm. Oui, oui, oui. Ah, événement, c'est gentil. Coucou, mon beau métis.
C'est bizarre.
Tu m'as trouvé comment, du coup ? Tu as remarqué, je m'étais fait une petite couleur pour toi. Blond californien. Oui, oui. Oui, car je suis une surfeuse. Je surfe sur la vague de l'islamophobie. Quelle belle vague. Une vague de 12 mètres en ce moment. J'ai jamais vu ça. Vas-y, enchaîne. Je sens que j'étais troublée. Ah. Merci, merci, Madame Le Pen. S'il vous plaît, Madame Le Pen, vous pouvez enlever votre main de ma cuisse. C'est gênant. Voilà. On respecte, non, Madame Le Pen. Oui, je sais que vous avez le masque, mais on respecte quand même tous les gestes barrières. Voilà, l'info du jour. Ce sont ces vacanciers qui quittent le couvre-feu pour la zone libre. Toutes ces petites villes de province où il y a une vie après 21h. Bon, après, la vraie question ce matin que l'on se pose à la rédaction, ne vaut-il pas mieux être enfermé à Paris et à Lyon que libre à Sochaux ou Laval ? Vaste question. Question quasiment philosophique, même si elle est évidente. Réponse ce matin dans le journal de 9h.
Ah, elle vous a trouvé, hein, Marine. Merci Mathieu, allez Anne.
À demain.
On reçoit celui qui est toujours plus haut dans les sondages, c'est Édouard Philippe. Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Écoutez, oui, ça me gêne d'en parler.
Ça faisait longtemps.
Je suis à combien, dites-vous
63% des Français qui ont une bonne opinion de vous.
Ah oui, oula, 63%, c'est, oui,
c'est bien. Hein,
pas mal, oui, c'est, ouais, c'est même beaucoup. Ah en ouais fait, c'est plus que Macron et Castex réunis, mais peu importe, poursuivez.
Dites-moi, vous avez vécu une perquisition la semaine dernière?
Effectivement, c'était très, très sympathique. C'était un petit peu Vie ma vie de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé.
Alors, pour beaucoup, vous êtes le seul espoir à droite pour 2022.
Non, écoutez, ça fait deux fois que vous me gênez, Mme Julie, à me faire des compliments. Mais non, c'est pas vrai. Il y a plein d'autres candidatures très sexy à droite. Il y a par exemple, vous le savez très bien, que, tout comme moi, vous êtes quand même informé. Mmh. Il y a quand même Jean-François Copé qui est super. Non, pardon, c'est une connerie. Là. Non, il y a Laurent Wauquiez. Non, oui, c'est vrai que les gens le détestent. Non, bon, mais il y a quand même Bruno Retailleau. Renaud, Bruno Retailleau. Voilà, non, mais les gens ne le connaissent pas, lui. Il y a quand même François
Barouin. Ah oui.
Mais bon, comme il ne veut plus y aller. Oui, non, il ne veut pas y aller. Donc, il y a Xavier Bertrand. Mais Xavier Bertrand, oui. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu pénible, la tragédienne. Et bon, vous avez raison, il y a que moi.
Ils sont contents, tout ça. Bah tiens, il y a Alain Juppé qui est passé vous voir.
J'ai entendu ton commentaire, mon cher Edouard. Bonjour, Edouard. Écoute, mon cher Edouard, mon cher Doudou. Oui, c'est comme ça que je l'appelle en privé. Mm-hmm, ouais. Je suis un petit peu à la maison, à Europe 1. Je voulais te féliciter, cher Edouard, pour ta première perquisition. Mais rassure-toi, c'est pas fini. Il y a de belles choses encore qui vont s'enchaîner, qui vont suivre. Peut-être la mise en examen, la prison, l'exil, qui sait. En tout cas, bravo.
Oh là là, dites donc, mais qu'est-ce que vous répondez alors, Edouard Philippe?
Merci beaucoup, Alain. Écoutez, pour un homme de droite, avoir sa première perquisition à 50 ans, c'est vrai que c'est tard. Hein. Si t'es de droite, que t'as pas une perquis avant 50 ans, c'est que t'as raté ta vie.
Ah tiens, comme vous dites.
Pour paraphraser.
Oui, Jacques Séguéla. Mais oui, bien sûr, on a percuté. Alors, on va revenir. On revient sur cette annonce de la mairie de Paris. Nous allons supprimer 50% des places de stationnement.
Eh ben dis donc, oula, elle est en forme, mon âne, ah, Adèle, oui, Hidalgo. Ce sont les soldes d'hiver, moins 50% sur les places de stationnement dans Paris.
Non, mais ça va devenir un enfer, Paris, sans place de parking. Mais comment les gens vont faire? On n'a plus le droit de venir dans Paris?
Mais allons, mais ma Julie, mais bien sûr que vous avez le droit de venir dans Paris. Mais vous ne pouvez plus vous y arrêter.
Ben comment ça?
Eh bien, vous pouvez passer dans... Je viens de m'expliquer, c'est fou qu'elles ne comprennent pas.
Mais
vous pouvez passer dans Paris en voiture, dire « Oh là là, regarde, c'est joli !» Mais vous ne vous arrêtez pas.
Oh là là, mais c'est une catastrophe pour les commerces, en tout cas.
Mais pas du tout. Tiens. Non. Mais elle a pensé à tout, mon âne. Je vous prends un exemple. Mm. Vous êtes en voiture sur les Champs-Élysées, Mme Julie. Mm. Vous êtes donc bloquée dans un embouteillage, comme d'habitude. Là, votre époux vous dit, à côté de vous... par la fenêtre. Oh tiens, la vitrine de chez Célio. Elle dit, oula, il est joli ce petit pantalon. Eh bien, il a parfaitement le temps de descendre, de rentrer dans la boutique, d'essayer le pantalon, de le payer, de remonter dans la voiture, puisqu'il faut à peu près 3 heures pour traverser la ville des Champs-Élysées en automobile. Pas besoin de parking, on a les embouteillages. Bravo, mon âne, bravo, mon Hidalgo.
Allez, bon. Merci, Bertrand. C'était un plaisir de vous retrouver. Tiens, à bientôt. On l'a appris hier, la première dame, Brigitte Macron, a été placée à l'isolement car elle est cas contact. Tout de suite, l'avis du docteur Simès.
Eh oui, bonjour Marina, bonjour à tous, bonjour à mon confrère Jimmy Mohamed. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler.
Ah. Oui, donc, la première dame, Brigitte Macron, a été placée à l'isolement car elle est cas contact, hein, je disais.
Tout à fait, cas contact, tout à fait, Marina. Alors concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, la première dame de France ne doit pas quitter l'Élysée, elle doit rester enfermée et ne rien faire, ce qui... finalement, vous en conviendrez, n'est pas si compliqué, vu que le rôle d'une première dame, c'est en général de ne pas quitter l'Élysée, rester enfermée et ne rien faire. Voilà. On lui souhaite donc du courage. Ce confinement devrait durer encore 2 ans pour elle. Allez, salut à tous. Salut Jimmy. Attention, parce que parfois, Jimmy va trop vite. Jimmy pleurniche. Voilà. Jimmy pleurniche.
Merci Michel Simès. C'est un leitmotiv qui revient en permanence cette semaine, la nécessité de la formation des imams. On va dans le premier centre de formation des religieux pour rejoindre Nelson Montfort. Bonjour Nelson.
Oui, oui, bienvenue ici à Clairefontaine, premier centre de formation de tous les religieux. Pardonnez-moi, nous sommes en plein match qui a déjà débuté il y a quelques minutes. Nous avons fait une équipe très œcuménique. Il y a le rabbin Jacob qui déborde l'instant sur l'aile droite, qui passe la balle, qui passe la balle. Il y a l'imam Kader qui est démarqué. Donne la balle.
Ah mais il ne se passe pas la balle entre juifs et musulmans?
Écoutez, oui, soi-disant, c'est parce que l'imam Kader a refusé de laisser le rabbin Jacob tirer un pénalty. On ne sait plus qui a commencé. Non, attends, tu arrêtes ça tout de suite, Tenzin. J'ai le moine bouddhiste qui passe la balle à l'adversaire sous prétexte qu'on est tous égaux. Nous avons là, à l'instant, l'abbé Jean-Pierre qui a quitté le terrain, mais qu'est-ce qu'il fout aller jouer avec les poussins, Jean-Pierre? Jean-Pierre,
on a toutes les caricatures là, c'est bon.
Il y a du boulot dans toutes les religions, vous l'avez compris. Saint-Michel Platini, viens nous aider.
Saint-Michel Platini,
Saint-Michel Platini, c'est pas mal ça. Merci Julie et Nicolas Canteloup. À demain évidemment, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. 8h55 sur Europe 1, Philippe Vandel, c'est Culture Média, la matinée qui continue de 9h à 11h. Bonjour mon cher Philippe.
Exactement, bonjour Mathieu. On va démarrer avec un sujet difficile. Notre info média du jour, c'est une question. Comment parler de l'actualité aux enfants sans les traumatiser, notamment une décapitation? Réponse avec deux spécialistes. On sera avec Bruno Catron, qui est le rédac-chef du groupe Playback, qui édite entre autres, Mon Quotidien et Le Petit Quotidien. C'est pour les 6-13 ans, donc pas facile de leur en parler. Et puis Aude Favre, qui est à la tête d'une association Fake Off, qui lutte contre la désinformation chez les jeunes. 10% revient, vous le savez.
Évidemment.
C'est ce soir, on sera avec le créateur de la série et producteur Dominique Besnéard et la comédienne Liliane Rovert pour le retour de la série consacrée aux agents du cinéma. Alors, il y a des grands noms dans cette saison. Sigourney Weaver, Nathalie Baye, Jean Reno, Charlotte Gainsbourg et le reste est encore plus connu. Et puis enfin, le pianiste virtuose, mais il n'aime pas qu'on dise ça, donc je ne le dis pas, Alexandre Tarot, pour la sortie de son coffret 3 CD, pas moins, le poète du piano.
Quel virtuose, quel provocateur.
Mais c'était écrit sur mon texte, j'ai regretté de l'avoir écrit.
Culture Média de
9h. Ça s'appelle la prétérition.
La matinée continue. Alors, que vous dire? Que je vais vous laisser entre les mains délicates, mes expertes de Sébastien Krebs, demain et après-demain pour vous réveiller. Je prends 2 jours, je vous retrouve lundi prochain. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.